Allô les amis, on va couper cette musique, heureux de vous retrouver. La nuit a été courte, mais les yeux sont grands ouverts. Hop, je lance le live également sur TikTok, vous avez le droit à la petite musique en plus. On est sur toutes les plateformes, YouTube, Twitch, TikTok et en podcast audio depuis une semaine. Et ça c'est cool en vrai. Voilà, hop, on se met le double chat ici. Voilà, normalement vous me voyez, normalement vous m'entendez, dites-moi si ce n'est pas le cas. Et voilà, c'est pas mal. Comment ça va? Merci Kifou pour ton petit message sur le fond d'écran, là c'était mignon. Merci à toi. Bonjour Bruxelles, on voit tes cernes en 4K, pas de soucis. Ouais, c'est vrai, ok. Non, pas d'essuie-glace ce matin, parce que j'ai un tournage cet après-midi. Voilà. Ce matin, revue de presse avec vous, cet après-midi, tournage en lien avec MVP, qui revient la semaine prochaine, d'ailleurs mercredi prochain, MVP. Bon, l'émission qui explore les voies professionnelles sur Twitch pour que chacun trouve la sienne avec plein de beaux invités et plein de chroniqueurs adorables. C'est qui le monsieur déjà de Kaamelott là, vous savez? Celui qui a pensé Kaamelott, qui réalise Kaamelott, qui tourne dans Kaamelott là. Oui, c'est ça, Alexandre Astier. Je crois bien qu'il est notre invité mercredi prochain, toi, MVP. À l'aise, tranquille, comme ça. Donc du coup, je vais voir une projection cinéma. Je sais plus ce que... Enfin, je vais voir un truc en fin d'après-midi qui est en lien avec ça. Oui. Mais si. Ça fait longtemps que je veux le recevoir, en plus. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, mardi prochain, mardi 7 octobre, 20h, mon plus gros stream de la journée, donc Calamity. Calamity? Calamity, peut-être? Parle à l'instant. Mon plus gros stream de la rentrée, le bingo, un nouveau jeu de culture générale, une nouvelle mécanique, inspiré de l'univers du bingo, plein de petites questions sympas, plein de petits jeux. On a trois invités, on a DFG, on a Jiraya, on a Elydia, voilà, qui vont jouer avec moi, qui vont faire gagner des cadeaux à leur communauté également. Et avec du public, on aura une cinquantaine de personnes et certains qui ont réussi à avoir leur place, je vois Calamity tout à l'heure, voilà. Et la revue de presse tous les matins, du lundi au vendredi, puisque désormais c'est un rendez-vous qui est quotidien, sauf le week-end. Le week-end, je passe un peu de temps avec ma famille. Comment ça va, vous? Merci Théo pour ce gentil message. Merci Aizen44 pour ce Prime. Merci Edrad pour ce soutien. Merci beaucoup. Merci Camille Over. Merci Dame Steph. Ça va sentir la framboise dans le studio. Si vous avez la ref, je vous aime. Ça va sentir la framboise dans le studio. Me dit Samus McMahon, si vous avez la ref, je vous aime. Je n'ai pas la ref, bordel. Ouais. Alexandre Astier, invité de MVP, ça n'était pas dans mon bingo. Me dit MG. Non, c'est pas le bingo, c'est. Oh, bingo. Oh, je l'ai, ok. Si, alors il sera pas dans bingo. Alors, il sera pas dans l'émission de mardi, le bingo, mais il est dans mon bingo, celui d'MVP. Ok. C'était. Ah, la framboise, c'est une ref à Kaamelott? Ah ouais, mais je sais que les passionnés de Kaamelott ont plein de refs très étranges. Est-ce que certains peuvent peut-être en citer? Merci beaucoup Eric pour ton message. Merci. Salut Odinox, comment vas-tu? Waouh, Alexandre Astier, personne vraiment géniale. Bah, je suis très heureux de le recevoir dans MVP, d'autant que MVP, comme c'est sur Twitch, on a le temps. Et donc Alexandre sera l'invité MVP, celui avec qui on revient sur son parcours pendant une heure. Donc si vous avez des questions à lui poser, ce sera en live bien sûr. Eh bien vous pourrez. C'est mercredi prochain, le lendemain du stream, le bingo. Merci Château Lardon pour le 47e mois, c'est joli. Elle est où la poulette? Ça c'est une ref de Kaamelott, ça. Spécial dédicace à Agen, demandé par Mimoud. Oh, waouh! Je ne l'avais pas vu, celle-là, t'avais pas dans mon bingo. Il y a Moonboob64 qui dit Alexandre Astier, c'est comme Simone Veil ou Michael Jackson, tout le monde l'aime. Je ne l'avais pas, celle-là. Je ne l'avais pas, celle-là. Faut pas respirer la compote, ça fait tousser, ça aussi, c'est Kaamelott? Je ne l'ai pas, celle-là non plus. Putain, je me sens tellement vieux. J'ai pas beaucoup consommé Kaamelott, moi, en vrai. Hein. Un peu, quoi. Faudra lui demander si Kaamelott c'est pas une histoire de famille au final. Ok. C'est pas faux, je l'ai. Simone Veil ou Michael Jackson dans MVP, ça va être compliqué. Pourquoi? Rien, à cœur vaillant, rien d'impossible. Hein. J'ai reçu Alexandre Astier, je vois pas pourquoi je recevrais pas Michael Jackson ou Simone Veil. Hein. Alexandra, tu régales, merci d'être avec nous. Et comment va Samuel Etienne au milieu de toutes ces actus bingo MVP? Fatigué. Fatigué. Je me suis levé très tôt ce matin. Et comme j'ai bossé super vite. Oh oui, je vous montre le sommaire. Oui, bien sûr. Attendez, je vous montre le sommaire. Il est prêt, le sommaire. C'est le sommaire d'aujourd'hui. Voilà de quoi on va parler ce matin. Du coup, j'ai réussi à redormir, à refaire une petite sieste. On ne consomme pas Kaamelott, me dit Kev la Carotte. C'est Kaamelott qui nous consomme. J'espère que j'ai eu raison de leak et que pour Alexandre Astier, là, j'annonce des trucs, je ne sais même pas si j'ai le droit. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? Oh, bah, je me suis levé tard. Je me suis levé à 5h30. Voilà. Mais comme je m'étais couché. On a fait une petite soirée Valo hier en 5-tac. L'objectif était de sauver le silver. On était à un bouclier de dérank et on a sauvé le silver. On a quelques petits RR en matelas. Bien, 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 bien. Et ça, c'est grâce à l'équipe, à la géniale équipe. Bonjour, tu as parlé de Bailan et Nico déjà ou à quelle heure vas-tu en parler? Alors, Els Axel, oui, alors j'en parle régulièrement parce que je trouve formidable ce qu'ils ont fait tous les deux. Je suis un grand fan, je l'ai dit depuis le début de cette aventure. On a suivi leur aventure régulièrement. On en a parlé avant-hier, on en a parlé hier. C'est étonnant que les médias traditionnels n'en parlent pas plus de cet événement que je trouve assez formidable. Et regarde dans le sommaire que tu as sous les yeux là, en fin de stream aujourd'hui, donc juste avant midi, puisque je suis avec vous jusqu'à midi. Après, j'ai un déjeuner de taf. Eh ben, on reviendra sur cette épopée de Bailan et Nico. Du coup, il faut que je commence cette revue de presse là, vite, 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 parce que vous voyez que j'ai beaucoup de choses à évoquer avec vous. Ah ouais, alors hier, Yummy Club, si pas aujourd'hui, j'en ai déjà parlé deux fois, mais. Electronic Arts, EA. Le sondage IFOP pour les prochaines présidentielles, Arthur, j'en ai parlé hier ou avant-hier. J'ai pré-shot. Tu l'as en replay sur Twitch et YouTube. Ouais, on va speedrun l'actu ce matin. Ok, Roi Burgonde, je t'envoie ça tout de suite pour que tu puisses avoir les infos sur la flottille. Où en est la flottille? Regarde, 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 regarde. Regarde, blablabla. C'est le premier sujet qu'on va évoquer ce matin. Hein? Ah, le nouveau gouvernement tombe. Ah oui, Remake me disait, normalement, le nouveau gouvernement tombe aujourd'hui. Alors, tombe, je me dis, merde, putain, il n'est pas formé déjà que le gouvernement l'a connu, que déjà il tombe, il est dégagé par une motion de censure. Et non, quand tu dis tombe, c'est-à-dire qu'il est annoncé. Ah, annoncé aujourd'hui? Moi, j'ai cru lire fin de semaine ou début de semaine prochaine. Bon, on verra, on verra. Ok. Les amis, on y va ou pas? Hein? Je vous fais un sommaire, comme ça, ceux qui peuvent pas. Restez avec moi jusqu'à midi. Vous avez l'essentiel de l'actu. Est-ce que je vous fais le sommaire vite fait? Ok. Hein, on a une intro super rapide. Là, on a une intro de 12 minutes. C'est un quasiment record. Normalement, on échange une demi-heure. On prend des nouvelles. Je vous écoute. Vous me racontez des trucs. Mais là, il y a trop de choses. Hein. Merci, mes Brésiliens, pour le soutien. Merci, Petrouchka, pour le Prime. Merci, Alixiage, mon boys band préféré, pour le 39e mois. Merci, Brilinis. Merci encore Château Lardon. Merci Camille Over. Merci Dame Steph. Merci Elia. On y va? Ok, c'est parti. Ok, donc, hop, côté Twitch, je vous mets la première une. Idem du côté des amis de TikTok. Ok, c'est parti. Donc, le sommaire, de quoi je vous parle ce matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, vous m'avez interpellé. Hier soir, on était en pleine soirée Valo. Sam, t'as vu la flottille pour Gaza interpellée. Bah, interpellée, arrêtée, arraisonnée. Voilà. Et je lui ai dit, en fin de soirée, je lui ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Je lui ai dit, ok, on en parle demain matin. C'est la une de l'humanité. Ok? Netanyahou torpille la solidarité internationale, la flottille de la liberté interceptée. Mercredi, par l'armée israélienne, en dehors de ses eaux territoriales, donc après dans les eaux internationales. Quelle validité juridique à ça? Bon, vous avez déjà un début de réponse. Merci Zenadora, merci Atsugwa. L'aide humanitaire destinée aux Gazaouis, cible de bombardement sans trêve, est bloquée. Voilà. Donc, on va se pencher sur ça grâce à l'Humanité, qui est bah, le seul journal qui en parle ce matin dans les versions PDF. Merci Vicky Le King, envoyé hier soir à la presse. dans les versions papier, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres articles ce matin. On en parlera bien sûr ce matin. Hier, alors je parlais de Madagascar, dont on va reparler ce matin, de la mobilisation de la jeunesse malgache, vous m'avez dit, et le Maroc alors? Je vous ai dit, attendez, attendons les premiers articles. Effectivement, depuis lundi, depuis le début de la semaine, il y a des manifestations au Maroc, des manifestations de la jeunesse marocaine, article dans Libération, ce qui ne nous empêchera pas d'aller chercher peut-être d'autres informations. Peut-être que vous en avez également, Maroc, des manifestations de la génération Z qui dégénère. Et les jeunes malgaches qui manifestent, on en parlait également hier, et je vous en reparle aujourd'hui avec un article de La Croix, la jeunesse malgache qui mène sa révolution. Merci Wins, merci pour le soutien. Je vais vite, c'est le sommaire. On parlera de Trump avec cette question que veut faire Trump de l'armée américaine sur le plan intérieur? Le Parisien nous explique ce matin que le président américain veut déployer l'armée, hein, et pas seulement la garde nationale, qui est une force de réserve, mais l'armée dans toutes les grandes villes démocrates pour officiellement s'occuper de la sécurité. Hein. Et le Parisien se demande s'il n'y a pas des énormes arrière-pensées politiques derrière ça, et plus que ça, une dérive. Ah oui, uniquement les villes démocrates, oui. Donc c'est intéressant. Dans le combat qu'il mène contre ses opposants politiques, le président des États-Unis semble décider à franchir un cap, envoyer les militaires, l'armée, dans les grandes métropoles du territoire américain et a priori plutôt les villes démocrates. Climat d'inquiétude, écrit le Parisien, je vous lirai ça tout à l'heure. Est-ce qu'on parlera aussi du discours de Trump devant tout l'état-major américain? On en a déjà parlé, Strangelove. Voilà. Mais c'est la suite de ça. L'article en parle d'ailleurs. Alors vous voyez que Le Monde en parle également. Mais hier, plusieurs d'entre vous dans les chats m'ont dit hey, et le shutdown aux États-Unis alors? Hop, sur le coup, je n'ai pas réagi parce que les shutdowns aux États-Unis, c'est-à-dire un budget pas voté par le Congrès américain qui fait que du coup, les salaires des fonctionnaires ne sont pas payés pendant X jours, X semaines. Et ça bloque plein de choses. Il y en a eu plein. Je crois que depuis 1980, il y en a eu, je sais plus si une dizaine ou une quinzaine. Donc du coup, j'ai pas réagi tout de suite. Et en fait, effectivement, il y a un nouveau shutdown aux États-Unis, toujours pour la même raison. Faute d'accord budgétaire au Congrès américain, l'administration fédérale est paralysée. Les services non essentiels sont fermés. Les fonctionnaires seront au chômage partiel. Le président Trump dit qu'il va en profiter pour dégraisser et virer plein de fonctionnaires. J'ai lu plein d'articles ce matin. Et clairement, c'est Le Monde qui nous propose l'article le plus clair sur un sujet qui n'est pas forcément simple à comprendre. Pourquoi le shutdown demande Kaladin Greyjoy. Il n'a pas la majorité? Eh ben, tu verras, justement. Il n'a pas une majorité suffisante. Ouais. Et un chasseur sachant répond parce qu'il faut 60% de voix pour. Bien joué. Vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes très fort. Alors, encore un sujet compliqué, mais quel sujet ne l'est pas finalement? L'histoire des drones russes. Hein. Plusieurs pays européens se sont alertés ces derniers jours, ces dernières semaines, de survols d'appareils, parfois d'appareils conventionnels, de drones a priori russes, voilà, au-dessus de leur territoire. Et il y a eu un sommet. Est-ce que c'est un sommet de l'autre? Non, c'est un sommet de l'UE à Copenhague, où les 27 pays européens cherchent à répondre aux provocations de Moscou. Je lis le Figaro. Et à pérenniser leur soutien à l'Ukraine en utilisant les avoirs russes gelés, testés par le Kremlin, les Européens au pied du mur. C'est la une du Figaro quand même ce matin. Hein. Les Européens cherchent la riposte aux drones russes. J'ai trouvé un article qui explique ça assez clairement. C'est un peu ce que je cherche chaque matin. C'est dans tous ces journaux que je vous lis, essayer de trouver les plus clairs et les plus pertinents sur ces actualités. Beaucoup d'actu internationale ce matin, vous voyez. Beaucoup d'actu internationale. Et je me suis dit, mais il faut peut-être que je vous parle un petit peu de la France. Où en est le gouvernement Lecornu? Pardon. Où en est le Premier ministre? Le Premier ministre Sébastien Lecornu, il n'y a toujours pas de gouvernement. Hein, mais pour l'instant, il est tout seul. Eh ben déjà, Lecornu, il cherche à amadouer les socialistes pour pas se prendre une motion de censure et pouvoir durer un petit peu. En proposant des. Pourquoi je suis tout flou sur. Je suis tout flou ce matin. Ah non, c'est pas ma caméra, c'est moi. Il faudrait que je dorme un peu plus. Ah, attendez, j'ai baissé la lumière aussi. Hier, on s'est fait une petite ambiance sur Valo, Five Stack. Ouais. Dites-moi quand j'ai une sale tête comme ça. Hein. Je vais vous monter la lumière. Et donc, ah putain, j'ai pas la main sur hop, les lights. Ça y est, c'est bon, c'est en train de revenir. J'espère. Parfois, les gâteaux, c'est. Ouais, j'ai la main que sur une là. Bougez pas. Et donc, le cornu, il a dit la taxe Zucman, non. Ah, maintenant, j'en ai deux sur trois. Ah, ça y est, voilà, regardez, hop là, regardez. Ouais, c'est un peu plus clair. La taxe Zucman, non, mais je peux vous proposer des trucs. Mais je peux vous proposer des trucs. Voilà, on verra quoi, voilà, en matière de fiscalité. Donc, des impôts a priori qui touchent les plus aisés, les plus riches, on verra de quoi ils retournent, mais pas de taxe Zucman. On verra si ça suffit aux socialistes. Et puis, une question que je trouve passionnante, c'est face à la situation politique extrêmement bloquée que nous vivons, ces gouvernements qui ne restent pas très très longtemps, cette absence de majorité pour soutenir la politique souhaitée par le président Macron, parce qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, c'est quoi les solutions? Je vous en parle régulièrement. Nommer un gouvernement en lui demandant de réussir l'impossible, c'est-à-dire de mener une politique, d'émettre un projet politique, d'émettre ne serait-ce qu'un projet de budget soutenu par une Assemblée qui a priori ne veut pas le soutenir. Hein, c'est une mission pour moi impossible. Deuxième solution, dissolution. Hein. On appelle. Comment ça, pas de majorité? Assia, tu n'es pas au courant que le président Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée pour soutenir sa politique depuis le début de son deuxième mandat? C'est-à-dire, c'est là, c'est. Tu es en retard de deux élections législatives? Tu m'inquiètes. Ça fait un moment quand même. Et parce qu'il y a eu celle de ratée de son qui a suivi sa réélection de président. Et puis après, il a raté aussi celle de la dissolution. Voilà. Et donc, la solution, est-ce que c'est la dissolution de l'Assemblée pour une nouvelle élection législative? Ouais, mais le risque, c'est qu'il a encore moins de soutien. C'est même quasiment sûr. Et une troisième, c'est sa démission. J'ai 16 ans, me dit Assia Babo. Excuse-moi. Autant pour moi. Alors, je vais essayer de revenir le plus simplement là-dessus tout à l'heure. Le président Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée pour soutenir sa politique. Voilà ce que tu peux retenir parce qu'il a foiré ses dernières élections législatives. Est-ce que le président Macron peut démissionner? Lui, il dit non. On va se pencher encore là-dessus ce matin. Voilà. Et puis, pas d'article ce matin dans la presse papier, la presse PDF, celle qui est allée hier soir à l'imprimerie, sur l'épopée de Baylan et de Nico, que je trouve pourtant formidable. Ils ont littéralement cassé Twitch pendant 3 semaines. Voilà. Et ça pose plein de questions extrêmement intéressantes. Et donc, j'ai pas d'article à vous proposer ce matin. Évidemment, si on tape Baylan et Nico sur Internet, on va trouver des articles dans Le Monde, dans Le Parisien, mais qui n'ont été publiés que sur les sites Internet de ces journaux. Alors qu'ils n'ont pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ils n'ont pas trouvé ce sujet suffisamment important pour le proposer dans leur prime, dans la version papier, dans la version PDF. Voilà, ça c'est intéressant. Donc on va trouver quelques articles, puis on se penchera là-dessus, pour saluer à nouveau ce qu'ils ont fait. Voilà, ok, voilà pour le sommaire. Ça fait 24 jours que j'étais sur leur live, je me dis casquette verte! J'ai littéralement pas consommé d'autres contenus depuis un mois. Ça va, casquette verte? Ouais, ah oui, je sais qu'ils vont passer dans le quotidien, ouais. Je suis assez d'accord avec ce que dit Laure Figueredo. Avec des médias mainstream qui continuent à bouder le monde d'Internet, c'est de l'élitisme. Certains me disent oui, mais ils ne le mettent pas dans leur format papier, parce que ça intéresse pas le lecteur du format papier, donc sous-entendu un lecteur plus âgé. Oui, mais si tu ne parles pas à ce lecteur, prétendument plus âgé. Okay, on a raison. En effet, il est plus âgé. Si tu ne parles pas à ce lecteur, un peu plus âgé sans doute, qui lit la presse papier, la presse PDF, de ces sujets, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, comment tu veux les y intéresser sans de temps en temps dire à ce public, attendez, attendez les gars, il se passe des choses en dehors de la télévision. Quoi? Il se passe des choses en dehors de la radio. Quoi? Il faut la mission des médias, ça n'est pas que de parler aux gens des sujets dont ils ont l'habitude d'entendre parler depuis 30 ans, c'est aussi de parler de nouveaux sujets. Donc pour moi, c'est une faute. Pour moi, c'est une faute. Ouais. Un truc qui casse Twitch pendant 3 semaines, du 220 000 personnes réunies sur un live hier soir, un contenu qui a vraiment passionné une partie du public des 15-30 ans pendant 3 semaines, bah, les gars, faut en parler, c'est tout. Sinon, comment voulez-vous que les générations se comprennent, quoi? C'est un travail, c'est un truc que les médias doivent faire. Voilà. Donc, pardon, je me mets un peu en colère, parce que je trouve que c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Bon, voilà pour le sommaire, les amis. D'ailleurs, j'ai pas mis de TC pour le sommaire. Je l'ai commencé à quelle heure, le sommaire? À peu près à... Je salue nos amis qui nous écoutent en podcast. Je mets des TC, je mets des timings pour que les gens s'y retrouvent. 12 minutes, ouais. T'es génial, Camille. J'aurais mis ça aussi, ouais. T'es exceptionnel. 12 minutes, ok. Voilà. Donc, 12 minutes et à 24 minutes, on va parler, premier sujet, de la flottille pour Gaza interpellée. 24 minutes. Voilà. Et je vous mets la petite flèche en face du premier sujet, ce qui permet à ceux qui nous rejoignent en cours de stream, les gens ne sont pas obligés d'être là au début, hein, tu viens quand tu peux aussi, de savoir exactement de quel sujet on parle. Idem sur TikTok, je vous mets une petite flèche, si j'arrive, voilà, si j'arrive à ouvrir le sommaire, en face de Floti Gaza, comme ça, ceux qui nous rejoignent, vous savez ce dont on est en train de parler, ce dont on a déjà parlé, et ce dont on va parler. Waouh! Ok, c'est parti. Je speedrun ce matin. Let's go. Qu'est-ce qui s'est passé? Une de l'humanité ce matin, donc un des sujets les plus importants dans l'actualité pour l'UMA. Netanyahou torpille la solidarité internationale. Blocus de Gaza, la flottille de la liberté, donc tous ces bateaux, plutôt des petits bateaux, hein, avec à bord des personnalités internationales, des membres d'ONG, des personnalités de la société civile, etc. La flottille de la liberté a été interceptée mercredi par l'armée israélienne en dehors de ses eaux territoriales. Donc en dehors des eaux territoriales israéliennes. Donc a priori dans les eaux internationales. Certains me disent que un ou deux bateaux ont réussi à passer. L'aide humanitaire destinée aux Gazaouis, par ailleurs ciblée de bombardements sans trêve, est bloquée. Lisons l'article. Ils auront tout tenté et confirmé que Netanyahou a transformé Israël en un État voyou. Après 2 années de massacres des Gazaouis réduits à la famine, d'intensification de la colonisation en Cisjordanie, de bombardements dans des pays voisins, le premier ministre israélien a encore une fois piétiné le droit international. Nouvelle démonstration de ces exactions, mercredi 1er octobre, donc hier, la flottille de la liberté, formée... Non, ils n'ont pas torpillé au Linux, je vais t'expliquer. A torpillé le droit international, les bateaux n'ont pas été torpillés, je vais t'expliquer. La flottille de la liberté, formée d'une quarantaine de bateaux chargés d'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza, ce sont des petits bateaux, donc c'est pas ce que contiennent ces bateaux qui est important, mais c'est le fait que symboliquement ils voulaient casser le blocus maritime de Gaza par l'armée israélienne. Donc cette flottille de la liberté a été interceptée par les navires israéliens au large des côtes égyptiennes et gazaouies dans les eaux internationales. Et pas dans les eaux israéliennes. Voilà. Certains me disent que certains bateaux ont réussi à passer. L'attaque a débuté mercredi soir aux alentours de 20h30. Depuis de longues minutes déjà, le compte à rebours s'égrenait. Donc il y a des militants, notamment un militant brésilien pour le climat et les droits humains, qui raconte. Hein? Voilà, un reporter de l'Humanité qui est présent sur l'un des bateaux raconte sur le radar de l'ALMA, un des navires de la flottille. Nous détectons actuellement 20 navires non identifiés à une distance de 7 à 15 000 marins devant nous. Il nous faudra environ 1 heure à 1 heure et demie pour atteindre leur position. Voilà. Les trois principaux bateaux de la flottille, le Sirius, l'ALMA et l'ADARA, ont été arraisonnés les premiers avec un procédé similaire. Un gros navire passe à côté, brouille les communications, puis des petits bateaux rapides approchent, tournent autour. Et les hommes, l'humanité explique, les commandos israéliens montent à bord de ces bateaux. C'est ce que explique, témoigne le reporter de l'humanité qui est dans l'un de ces bateaux. C'est intéressant d'avoir un journaliste sur place. Ce scénario s'est répété pour les autres voiliers des plus petits bâtiments. L'expédition, rappelle l'humanité, était partie le 31 août de Barcelone en Espagne pour tenter de briser symboliquement, encore une fois, hein, le blocus maintenu d'une main de fer depuis 2007. 2007. Sur l'enclave palestinienne. Mais même si les équipages n'envisageaient aucunement de pénétrer dans l'espace maritime israélien, l'armée de Benjamin Netanyahou est intervenue dans les eaux internationales pour les empêcher d'atteindre la bande de Gaza, ravagée depuis bientôt 2 ans par les bombardements, les assauts terrestres de l'armée israélienne et la famine. Porter la solidarité à une population martyrisée était la mission de cette flottille. Elle aurait dû être protégée par les conventions de Genève. Qui impose, pour être tout à fait précis, à Tel Aviv de laisser passer de l'aide humanitaire dans un territoire illégalement occupé. Puisqu'on parle de droit, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 reconnaît le droit aux civils de naviguer en haute mer en sécurité. Toute intervention dans les eaux internationales est donc, sur un plan juridique, une violation de cette convention. Ce que fait la flottille est absolument légal, a répété la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés. Donc c'est Francesca Albanese qui, lors d'une conférence de presse hier, a déclaré « Cette flottille a le courage de vouloir forcer le blocus conformément au droit international. Quand aucun État membre ne le fait, Israël n'en a cure. Quelques mois auparavant, déjà, une précédente flottille de la Liberté, ce n'est pas la première fois, avait subi le même sort. » Quelqu'un m'a demandé « Mais qu'est-ce que deviennent les passagers de ces bateaux, de la flottille? » Désormais, écrit l'UMA, plusieurs centaines de personnes, dont des élus de différents pays d'Europe, sont détenues illégalement par les autorités israéliennes. À bord du Mia, notre collègue de l'Humanité, Émilien Urbach, a rapporté depuis un mois ce périple dans nos colonnes. Puis il y a un journaliste de l'Humanité dans l'un des bateaux. Donc vous lirez, si vous en avez le temps, l'article de l'Humanité ce jeudi. Je ne vous lis pas tout, on n'aura pas le temps. Voilà. Et quelqu'un me disait, mais il n'y avait pas des bateaux militaires européens qui accompagnaient une partie de la flottille pour protéger justement leurs ressortissants. Rome et Madrid avaient effectivement envoyé, c'était les 2 seuls pays de l'Union européenne, un navire chacun pour protéger leurs ressortissants, mais à la limite des 150 000 marins des côtes gazaouis, les bateaux turcs qui nous accompagnent ont cessé de le faire et les bateaux italiens se sont également écartés, témoigne l'un des occupants des bateaux. Vous savez, il n'y avait pas de navire français, pas de navire militaire français, hein, dépêché par la France. Voilà pour les infos de l'humanité. Certains me disaient que certains bateaux de la flottille avaient quand même poursuivi leur route. Je vais essayer de trouver cette info. Il en reste en mer sur le tracker de la flottille, me dit Nah. Ok. Flottille Gaza. Je vous lis. Hein. Voilà, j'ai un article de France Info que je vais vous montrer là. Bougez pas. Qui confirme ce que vous dites là. Voilà. Je vous le montre. C'est ça. Article de France Info publié, mis à jour il y a 10 minutes. La flottille pour Gaza assure que plusieurs de ses navires sont toujours en route après ses premières interceptions de la marine israélienne. Une trentaine de bateaux tenteraient toujours de rejoindre l'enclave palestinienne malgré le blocus. Donc voilà, 30 bateaux affirmaient hier soir la flottille pour Gaza vogue toujours vers l'enclave palestinienne. Ils sont déterminés, ils sont motivés à assurer le porte-parole de la flottille. La flottille qui a ensuite annoncé 6 nouvelles interceptions. Voilà. Après 13 navires interceptés hier. Avec 200 personnes au total, dont Greta Thunberg, l'activiste suédoise. Ok, aussi pour les dernières infos. Ok, je vous lis. Je vous lis sur ce sujet. On me dit que le Mikeno, notamment, est dans les eaux de Gaza, okay, sur le tracker peut-être dont vous parlez. Certains m'interrogent sur la situation au Maroc. Tu regarderas dans le sommaire, c'est un sujet qu'on va aborder ce matin. Mais là, on parle de Gaza et d'Israël, on ne peut pas tout mélanger. Merci docteur Sesento, merci Cathy Préfleury, merci Pastradan, merci Kikorju, merci Wins. Je vous lis. Hein. Le sommaire, je vous le mets dans un instant. Je vous lis un petit peu là sur Israël. Toute façon, sachez qu'on va refaire un point demain, puisque manifestement certains bateaux continuent leur route hein, de la flottille. Et demain matin, on en reparlera bien sûr. J'espère qu'on aura des nouvelles et des autres bateaux et des personnes retenues. Je m'engage à vous en parler demain matin. Voilà, et Ocharou écrit dans le chat, même si c'est symbolique et que la réaction d'Israël était attendue, c'est tout de même un beau geste d'humanité. Certains vont peut-être s'étonner ce matin que je ne parle pas du plan de paix de Trump pour Gaza, dont je vous ai longuement parlé. Je vous remets les journaux. Voilà, je vous remets le sommaire du coup. Hier, tout simplement parce que maintenant, après. Déclaration Netanyahou où il dit qu'il accepte le plan de paix tout en contestant certains points importants, je vous en ai parlé hier. On attend la réponse du Hamas. Quelqu'un m'a dit dans le chat tout à l'heure, mais pourquoi le Hamas a refusé le plan de paix? À ce jour, le Hamas n'a pas refusé le plan de paix. Hein, il a quelques jours pour l'étudier et donner sa réponse. Donc ça, je vous en parlerai sûrement demain, mais aujourd'hui, je n'ai pas d'infos sur ça. Voilà. De toute façon, le Proche-Orient, les Palestiniens, Israël, je vous en parle. Tous les matins. Voilà. Sachant que Netanyahou, lui, espère bien que le Hamas va refuser hein, ce plan trumpien pour la région, ce qui lui permettrait de dire, vous voyez, moi je veux la paix, les autres non, ce qui est un mensonge, bien sûr. Et donc je continue ce que je fais dans la bande de Gaza. Et pourquoi pas en Cisjordanie avec les colonisations illégales des territoires. Voilà. Ensuite, demain, bien sûr. J'ai beaucoup d'actu et notamment beaucoup d'actu internationale ce matin, donc vous m'excusez d'aller un peu vite et de ne pas vous lire trop, je m'en excuse. On va passer à la jeunesse marocaine et malgache mobilisée, voilà, de pays différents, mais. Voilà ce qui les rassemble aujourd'hui. On a 37 minutes. Je vous mets le TC pour le replay. Voilà, on a parlé de Madagascar hier. Voilà, on va en reparler et je vais aussi vous parler du Maroc. Voilà. C'est parti. Article dans Libération, petit article. Voilà, j'aurais aimé en savoir plus, mais en cherchant sur internet, j'ai trouvé plein d'autres articles ce matin sur ce qui se passe au Maroc, là, depuis quelques jours et depuis quelques mois également. Même si les manifestations dont on parle, elles ont débuté lundi. Il y a Nanou dans le chat qui nous écrit: je suis franco-marocaine, je soutiens complètement le mouvement de la jeunesse marocaine. Au Maroc, des manifestations de la génération Z dégénèrent. C'est un article dans Libération ce matin, que je lis rapidement. Un fourgon de police, gyrophare allumé, percute de plein fouet un jeune protestataire avant de poursuivre sa route au milieu des manifestants. Au quatrième jour, hein, parce que ça a commencé lundi, au quatrième jour des rassemblements qui se multiplient au Maroc, La vidéo est devenue virale. La scène se déroule sur l'une des plus grandes artères d'Oujda, ville marginalisée d'environ 600 000 habitants située dans l'est du pays, près de la frontière algérienne, où des heurts ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi. Après la diffusion de ces images, l'agence de presse nationale MAP a démenti les rumeurs de décès. La victime hospitalisée souffre de blessures aux jambes, mais ses jours ne seraient pas en danger. La violence ne s'est pas limitée à Oujda. Des affrontements ont également éclaté dans d'autres régions, notamment à Inesgan, autant pour moi, banlieue pauvre d'Agadir, où des hommes cagoulés ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre, incendié des barrières et des bennes à ordures. Images similaires à Beni Mellal, à Ait Amira, Errachidia et Témara, illustrant l'escalade de la crise à travers le pays, ces événements ont fait plusieurs blessés. Depuis lundi, nous explique donc Libération, le Maroc vit au rythme de manifestations d'une rare ampleur, organisées via la plateforme Discord. Ces rassemblements, jusque-là pacifiques, sont portés par la génération Z, née entre 96 et 2012, soit près de 8 millions de Marocains. Les jeunes protestataires, que demandent-ils ? Ils exigent un meilleur accès à l'éducation, à la santé, tout en dénonçant la corruption qui gangrène les institutions, alors que Rabat consacre des budgets jugés colossaux à l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en décembre, et à la Coupe du Monde prévue en 2030. En moins de 24 heures, entre mardi et mercredi, le groupe est passé, donc sur Discord a priori, de 55 000 à 125 000 membres. À l'origine de la colère, qu'est-ce qui a provoqué tout cela ? C'est intéressant, il y a quelqu'un avec un pseudo un peu étrange dans le chat qui nous dit « Tout se passe très bien au Maroc, occupez-vous de vos affaires les Français ». C'est intéressant. À l'origine de la colère, la mort suspecte de 8 femmes enceintes en août, à la suite d'accouchements par césarienne à l'hôpital public Hassan II d'Agadir. Ce scandale sanitaire illustre pour beaucoup la déliquescence du service public marocain et renforce l'image d'un pays à deux vitesses où l'accès aux soins reste profondément inégal. Depuis 4 jours, des centaines de Marocains se rassemblent dans une dizaine de villes du pays pour tenter de faire entendre leur voix. Je vais vous lire dans un instant, je ne vous oublie pas. Mais les manifestants ont très vite été dispersés par les forces de l'ordre. Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées, leurs téléphones fouillés, leur identité vérifiée, y compris par des policiers en civil. Sur les réseaux sociaux, une vidéo saisissante montre un père de famille, sa fillette dans les bras, embarquée dans un fourgon de police. Le parquet de Casablanca a annoncé mardi l'incarcération de 18 jeunes pour avoir entravé la circulation sur autoroute et, ouvrez les guillemets, consommer de la drogue, fermez les guillemets. À Marrakech comme à Rabat, les principaux lieux de mobilisation, comme la place Jama El Fna et Bab El Had, sont désormais quadrillés afin d'éviter tout rassemblement. Des pratiques dénoncées par Amnesty International qui appellent les autorités à faire preuve d'une retenue maximale et éviter tout recours illégal ou excessif à la force. Face à cette escalade, le Premier ministre, Aziz Akhannouch, et les principaux responsables de sa majorité ont réaffirmé leur écoute attentive. Merci Nefer Pito. Merci Dams. Merci Derx G4. Merci The Ghost Stalker. Merci Jean-Luc. Merci War. Je vous lis. Olinox nous dit certains d'entre vous prennent personnellement cet article de presse. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Vous avez déjà beaucoup de problèmes en France à régler. Ouais. C'est comme si on disait aux gens qui se mobilisent pour les Gazaouis, hein, les gens en Europe. Les gens dans différents pays à travers la planète. Mais pourquoi vous occupez des Gazaouis ? Occupez-vous de vos problèmes ? C'est très intéressant. Voilà. Ezi me dit, j'ai une vidéo de mon cousin qui habite Casablanca. Il me dit que la situation est très instable. Je vous lis. Je vous lis, pardon, je suis en train de remonter le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent depuis le Maroc, là ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des attaches marocaines ? et qui ont des témoignages sur place. Hier, on l'a fait à propos de Madagascar et on avait des témoignages extrêmement intéressants. Miu écrit dans notre chat, mon mari est marocain, il aime son pays, il aime son roi, hein, et pour autant il est content de voir les jeunes bouger pour faire évoluer le système. Shema me dit, quand on aime son pays, on veut qu'il s'améliore, c'est pour ça que les jeunes se mobilisent. History with AI me dit, je suis marocain et ça a commencé samedi pour être précis et non lundi, comme le disait l'article de Libération. Vous êtes nombreux à avoir de la famille au Maroc, n'hésitez pas à témoigner de ce que vous savez, de ce que vos proches vous ont dit sur place. Gomar me dit, mon conjoint est marocain, il est content que ça bouge et qu'enfin on en parle. Alors, on a le même pseudo depuis tout à l'heure, là, User 4359, qui nous répète qu'il ne se passe rien au Maroc et que on ne doit pas s'intéresser à ce qui s'y passe actuellement. Je crois qu'on a compris ton message. Alors si on fait, hein, si on fait une recherche dans... Là, j'ai trouvé un article dans Libération, mais on va faire l'expérience d'ailleurs, on va faire l'expérience en direct. Si on cherche sur les sites internet des journaux que je lis d'habitude, on va trouver d'autres articles. Hein. On fait l'expérience tout de suite. Voilà, ça c'est ma recherche. Ami TikTok, je vous fais la même. Hop. Hop. Ici. Voilà. Alors... Maroc, actualité. Là, vous avez un article dans Le Monde. Il y a 8 heures, au Maroc, deux personnes abattues près d'Agadir. Certains m'en parlaient dans le chat. Hein, ça n'était pas dans l'article de Libération. Au cours des manifestations de la Gen Z, hein, deux personnes tuées qui tentaient, selon les autorités, de prendre d'assaut une brigade de gendarmerie. La même personne dans le chat TikTok, hein, c'est pour ça que ceux du chat Twitch ne le voient pas, la même personne depuis tout à l'heure nous dit maintenant la France a 3 000 milliards de dettes, occupez-vous de vos affaires. Très intéressant. Mais rien n'interdit aux Marocains de se pencher sur l'actualité française. Hein. En tout cas, moi, rien ne me gêne dans tout ça. Effectivement, et Le Monde nous dit que ça a commencé samedi, et pas lundi. Voilà. Il s'agit de l'incident le plus grave depuis le début des protestations, impulsé samedi 27 septembre. Merci à la personne dans le chat qui nous le disait tout à l'heure, tu as raison. Par un collectif de jeunes baptisé Gen Z 212 précisément, pour réclamer de meilleurs systèmes éducatifs et de santé. Elles ont rassemblé des centaines de personnes à Casa, à Tanger, à Tétouan avec les slogans Le peuple veut la chute de la corruption, liberté, dignité, justice sociale. Les protestataires à Casablanca ont également demandé le départ du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Donc, il y a un article assez complet sur lemonde.fr qui est disponible gratuitement. Vous n'avez pas besoin de. Certains articles sont disponibles sur abonnement, hein, sur les journaux, ça dépend. Certains sont accessibles à tout le monde. Celui-ci, par exemple, vous tapez Maroc dans Google Actu et vous le trouvez en deux clics. Il est assez complet, ça parle des interpellations, plus de 400 interpellations. Voilà, et on a la fin de l'article ici qui est intéressante. Ce mouvement, ce groupement, Gen Z 212, est apparu récemment via des appels à manifester sur les réseaux sociaux comme Discord, c'est extrêmement intéressant. Il se décrit comme un espace de discussion sur des questions qui concernent tous les citoyens, comme la santé, l'éducation, la lutte contre la corruption, et affirme rejeter la violence et agir par amour de la patrie et du roi Mohamed VI. Donc ce n'est pas un mouvement qui conteste l'autorité du souverain. Hein, vous le voyez ici. Au Maroc, les inégalités sociales restent un problème majeur, avec de fortes disparités régionales et un fossé entre les secteurs publics et privés. Et si vous cherchez, vous allez trouver sur France Info ici, sur Radio France Internationale ici, dans le Figaro là, dans Ouest France, plein d'articles sur le sujet. Parfois, c'est quelque chose qu'on constate souvent, parfois je vois des messages mais qui sont pertinents, hein, en mode mais pourquoi les médias ne parlent pas d'eux? Par exemple, je pourrais entendre, je suis sûr que quelqu'un l'a écrit ça, mais pourquoi les médias ne parlent pas du Maroc, de ce qui se passe au Maroc? Alors qu'en fait, ça dépend du média que vous consommez. Voilà. Peut-être que sur la chaîne d'info en continu que vous consommez, peut-être que dans la boucle d'information que vous consommez sur Internet, peut-être que dans le JT que vous regardez, vous n'avez pas entendu parler du Maroc, mais si vous cherchez, si vous cherchez un petit peu, vous allez voir que, par exemple, les quotidiens nationaux en parlent manifestement beaucoup. Voilà. Je vous lis un petit peu sur le Maroc et on enchaîne avec Madagascar dont on a parlé hier, moi je voudrais continuer à en parler. Ezi me dit, la majorité des Marocains soutiennent le roi, mais le problème, c'est l'entourage corrompu. Hein, Sarah me dit, un parti politique essaie de s'approprier le mouvement en détournant son message pour demander la destitution du roi, alors que ce n'est pas le cas, on tient à notre roi, nous dis-tu. Je vous lis. Hein. Merci Uranium. Alors, Uranium, merci pour ton message. Je suis originaire d'Agadir, l'hôpital en question, celui où il y a eu les jeunes mamans qui ont trouvé la mort là, est une véritable catastrophe. Par exemple, on vous demande d'aller acheter vous-même le matériel pour recoudre une plaie. Donc il y a un problème au niveau du service. De santé publique, quoi. Merci Neferpito. Merci encore, Dams. Merci, Sir Griffon, pour ton message. Alors, la même personne depuis tout à l'heure qui essaie de nous expliquer qu'en France, on ne doit pas s'intéresser à ce qui se passe au Maroc, ou plutôt que tout se passe bien au Maroc, occupez-vous plutôt de votre dette. Cette même personne vient d'écrire à l'instant, il n'y a aucune manifestation au Maroc, ce sont des montages fake news circulés, il n'y a rien à voir. Il y a un moment, on va se demander si tu es un agent marocain, quoi, parce que c'est quand même, ça manque un petit peu de finesse quand même. Pour le coup, je pense qu'il faut que tu mettes un petit peu de subtilité dans les infos que tu essaies de faire circuler parce que là, c'est compliqué de t'apporter le moindre crédit, quoi. Oui, il ne contracte pas exactement, oui. Merci, Defecator. Et Madagascar, eh bien on enchaîne. Bon, le Maroc, on va suivre. Je pense qu'on en parlera demain. Peut-être que j'aurai des articles. Moi, ce qui, par exemple, si on va, si, tout à l'heure, je vous parlais du Monde. Si vous allez voir l'article du Monde dont je vous parlais tout à l'heure sur le Maroc, hop, il est là. Vous allez aussi trouver toute une série d'articles de ces derniers jours, de ces dernières semaines, du Monde sur le Maroc. N'hésitez pas en vrai quand vous vous intéressez à un sujet comme ça, vous allez sur Google Actu, voilà, et après vous cherchez à identifier une source de qualité qui vous semble rigoureuse, et vous allez voir que non seulement vous allez pouvoir consommer cet article, mais revenir aussi sur d'autres articles du même média sur le pays par exemple. Voilà. Et ça vous permet d'approfondir, de poncer un sujet comme ça, au-delà des 15 secondes que vous avez entendues à la radio ou de la brève que vous avez entendue sur une chaîne d'info, quoi. C'est là où Internet est un outil en matière d'actualité quand on sait s'en servir qui est incroyable en fait. Qui est incroyable. Merci Chiguridu. Merci Adréglas. Merci Terlopop. Les articles du Monde sont payants. Pas tous, pas tous. Alors. Un article, ça a un coût, il faut payer les journalistes derrière. Donc certains articles sont accessibles uniquement sur abonnement, mais pas tous. Et parfois, t'as des articles de très bonne qualité qui sont accessibles gratuitement, quoi. Allez, demain, on reparlera du Maroc. Parlons aussi de ce qui se passe à Madagascar, puisqu'on en a parlé hier, mais tout le monde n'était peut-être pas là hier. Voilà, donc on est toujours sur le même sujet, puisque j'ai mis ces deux sujets dans la même enveloppe, Maroc, Madagascar, la jeunesse mobilisée. Donc là, on est avec Lacroix cette fois. Hein, la jeunesse malgache mène sa révolution. Les manifestations qui embrassent tout le pays depuis une semaine ne cessent de prendre de l'ampleur malgré la répression violente qui a déjà fait 22 morts. La source, c'est l'ONU. Ce qui serait intéressant dans les prochains jours, c'est de se poser cette question que pose Twisted Art. Sam, comment expliquerais-tu cette vague de révolte qui se propage à travers le globe, Népal, Madagascar, Maroc, venant de la jeunesse? On a déjà lu un papier il y a quelques jours sur le sujet, mais je suis sûr qu'on va en retrouver dans les prochains jours pour essayer de comprendre ce qu'il y a, quel est le lien entre ces différents pays, quoi. Aussi différents que le Népal et le Maroc, par exemple. Les rassemblements d'étudiants à Madagascar qui ont appelé à la grève générale, hein, qui dénoncent notamment le comportement de leur président, se poursuivaient mercredi. Là, on a une malgache jointe par Lacroix et qui témoigne. Merci Dartaliot. Madagascar s'effondre depuis des années. Nous sommes résilients, mais nous n'en pouvons plus de souffrir du manque d'eau, d'électricité, de ce régime corrompu qui s'enrichit sur notre dos. Ça dépasse les bornes, dit-elle. Au fil de la conversation téléphonique, la colère de Lila semble inextinguible. La soixantaine, vivant dans la capitale Antananarivo depuis 2017 après avoir vécu en Europe, cette employée malgache, pas la plus malheureuse du pays, dit-elle, a du mal à contenir sa rage face à un pays qu'elle a vu péricliter ces dernières années, et qui n'hésite pas à parler d'une véritable révolution en marche menée par les jeunes. Les manifs qui ont embrasé le pays depuis maintenant une semaine, violemment réprimés par la police, qui ont fait au moins 22 morts selon l'ONU, ne cessent de prendre de l'ampleur, et les jeunes étudiants ont appelé à la grève générale. Des casseurs qui avaient été envoyés par des forces obscures dans ces premières manifs s'étaient livrés à des pillages toute la nuit, sans réaction de la police, une façon pour le régime fragilisé d'effrayer la population. Outre la capitale, la mobilisation est très suivie dans le nord de l'île. Les foules sont encore importantes ce mercredi dans le centre de la capitale, témoigne Lila. Nous sommes fiers de voir la jeunesse étudiante mener la contestation. C'est intéressant parce on avait des gens tout à l'heure dans notre chat en lien avec le Maroc qui disaient également leur fierté de voir les jeunes marocains se bouger. Le mouvement Gen Z, hein, pour Génération Z, qui reprend à son compte le drapeau pirate tiré du manga japonais One Piece, signe de ralliement vu en Indonésie et au Népal. C'est là où ce sera intéressant dans quelques jours de se pencher sur les liens qui unissent ces mouvements. Hein, mouvement Gen Z, c'est aussi le nom du mouvement, on l'a vu au Maroc. Mène les protestations. Il s'agit de la contestation la plus forte depuis celle de 2009, qui avait vu le départ de l'ancien président Marc Ravalomanana, assure un diplomate en poste sur place. Et les revendications dépassent maintenant le ras-le-bol initial qui s'exprimait, donc vous l'avez compris, contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité. Ces coupures conditionnent la vie déjà misérable de toute la population. À cette plaie vient s'ajouter un système éducatif délabré, et je ne même parle même pas des services de santé, dit encore cette habitante de Madagascar, jointe par Lacroix. Un des mots d'ordre affichés désormais par les manifestants, par la Gen Z, via ces canaux, est Rajoelina dégage, du nom de l'actuel président, Andry Rajoelina, 51 ans, qui a la double nationalité, si je dis pas de bêtises également, non? Hein, c'est ça? Française et malgache? Une première fois au pouvoir de 2009 à 2014 à la faveur d'un coup d'État, c'est ça, hein? Ouais. Donc, une première fois au pouvoir de 2009 à 2014 à la faveur d'un coup d'État, élu en 2018, réélu en 2023 dans un scrutin contesté. Face aux protestations au départ pacifique, le président a annoncé lundi la suspension du gouvernement, donc le gouvernement a sauté. Il essaye de reprendre la main, analyse le diplomate, mais il est très affaibli et s'il n'arrive pas à se relancer, il se fera destituer par le Parlement, une longue tradition historique à Madagascar. Alors, ce court article est intéressant, notamment par sa chute, qui revient un petit peu sur l'histoire de Madagascar. Indépendante de la France depuis 1960, l'île n'a pas connu de longue phase politique de stabilité. En dépit de ses richesses naturelles exceptionnelles, Madagascar reste l'un des pays les plus pauvres de la planète, classé 140e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption de d'une ONG qui s'appelle Transparency International. Près de 75% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2022, hein, selon la Banque mondiale. En dépit de toutes les plaies qui gangrènent ce pays depuis des décennies, cette habitante jointe par la croix, Lila, veut encore y croire. Ces soulèvements pourraient ouvrir une ère nouvelle pour le pays. Le système doit changer, je peux rêver, la jeunesse y croit. Voilà. Hier, on avait des malgaches ou des gens qui ont de la famille à Madagascar qui témoignaient et qui nous parlaient du quotidien des malgaches très difficile. Je vous lis. Dis-moi, Rubik. Il y a Laure Figueredo qui écrit « Quand on n'a plus rien à perdre, on se bat pour garder le peu qu'on a et c'est là que naissent les révolutions. » Alors, c'est intéressant parce que on se posait la question des liens entre ces différents mouvements, Népal, Maroc, dont on parlait il y a quelques minutes, Madagascar. Et Astéroïde s'interroge sur le rôle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux participent certainement à la prise de conscience, via la communication notamment, de nos générations, que la vie peut être autre chose que ce dont à quoi nos prédécesseurs se sont conformés, car ils n'ont eu que cette réalité. En tout cas, vous êtes très nombreux à vous interroger sur ce mouvement qui n'est pas circonscrit à un pays. Vous vous interrogez sur pourquoi ces jeunesses, dans des pays aussi différents, Madagascar, Maroc, Népal notamment, se mobilisent, quoi. Ça, il faudra absolument qu'on trouve un peu des papiers transversaux, et je suis sûr qu'ils vont arriver dans les prochains jours là-dessus. Je vous lis. Alastair m'a dit, j'ai côtoyé des malgaches dans mon ancien travail. Ils m'ont expliqué que c'était full corruption là-bas, que ce soit dans la police ou dans l'administration. Good ID Job me dit la même chose. Un seul mot d'ordre contre la corruption. Bon, on a parlé de Madagascar hier, on a parlé de Madagascar aujourd'hui. Je pense qu'il faut suivre ce qui se passe actuellement au Maroc et à Madagascar. Et puis je m'engage à essayer de vous trouver dans les prochains jours ces papiers un peu transversaux qui s'interrogent peut-être sur ces mouvements de jeunesse dans ces pays. Voilà. Voilà. Il est possible que ces articles existent déjà d'ailleurs. On manque un petit peu de temps ce matin au vu de l'actualité pour tous les traiter. J'ai quand même envie de regarder si en deux clics, je ne peux pas vous trouver ça. Si je tape par exemple Népal. Hop. Ouais, t'es où là? Tu veux que je vous remets l'article quand même? Si je tape Népal par exemple, mais aussi Maroc et Madagascar, dans Google Actu par exemple, est-ce que je vais trouver des articles un peu transversaux, quoi? Et oui, j'en ai. Et oui, j'en ai. Je vous montre. TikTok, je vous montre. Hein, du Maroc à Madagascar, la génération Z fait sonner la révolte au-delà des frontières. Un papier sur France 24. Après le Népal, l'Indonésie aussi. Et Madagascar, la Gen Z se révolte au Maroc. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de trouver une source de qualité. C'est quoi une source de qualité? Bah, ça c'est la fréquentation des médias au quotidien qui va vous le dire. À vous, c'est très subjectif. Voilà. À un moment, si vous passez du temps à chercher, à fouiller, vous allez dire, ah bah tiens, cet article est plus complet, il semble mieux sourcé, plus construit, et il me donne plus d'informations que d'autres, quoi. Ça, c'est un travail que chacun doit faire. Là, c'est intéressant, là, France 24, bon ben, qui est un média que je connais bien. Depuis 2022, une série de soulèvements menés par la génération ultra connectée. Quelqu'un nous parlait du rôle des réseaux sociaux tout à l'heure dans le chat. Donc, une série de soulèvements menés par une génération ultra connectée, née au milieu des années 90, c'est la génération Z, fait trembler les élites vieillissantes et corrompues de plusieurs pays du Sud. Après le Népal, Madagascar et le Maroc apparaissent comme les derniers exemples de ces mobilisations où se mêlent colère sociale et solidarité numérique. Alors, on a différentes photos ici. Voilà. Un cliché. Intéressant cet article. Vous voyez, je vous l'ai dit, on va le trouver dans les prochains jours. Je pense qu'on a trouvé cet article. Il est plutôt bien fait. Un cliché tenace la dépeint comme apathique et peu intéressée par la politique, mais ces dernières semaines, la génération Z a offert un sérieux démenti. En témoignent les images d'une jeunesse en révolte dans les rues de Katmandou au Népal, de Jakarta en Indonésie, mais aussi de Rabat au Maroc et d'Antananarivo à Madagascar, deux pays africains où la mobilisation se poursuit actuellement. Depuis une semaine, la grande île de l'océan Indien, donc Madagascar, hein, est secouée par un mouvement de contestation. On est sur les réseaux sociaux à l'appel de la Gen Z Madagascar, groupe informel composé pour l'essentiel de jeunes, d'étudiants qui se revendiquent pacifiques et citoyens. Si la jeunesse représente l'écrasante majorité des habitants de Madagascar à la base, dont les deux tiers avaient moins de 30 ans, pays très jeune en 2023 selon l'UNICEF, jamais la Gen Z n'avait pris une part aussi active dans un mouvement de contestation politique. Ce mouvement est avant tout inédit par sa forme profondément horizontale, spontanée, décentralisée. Contrairement aux mobilisations du passé portées ou récupérées par les partis politiques, des syndicats ou des figures charismatiques, celle-ci est née d'une indignation collective organique, principalement dans les espaces numériques, et s'est structurée sans leader unique. C'est une enseignante chercheure en sciences politiques à Madagascar qui explique cela. Faites pas attention aux pubs, hein, ça, on est sur Internet, on s'en fiche. Cela lui donne une puissance symbolique nouvelle, dit la chercheuse, car elle ne répond pas à une logique de conquête du pouvoir, ça ne part pas d'un syndicat, ça ne part pas d'un parti politique, mais un impératif existentiel, nourriture, eau potable, santé. Ah, celui de réclamer un avenir vivable. Il est bien cet article, il est pas mal. Avec sa maîtrise des codes d'Internet, la Gen Z a réussi à mobiliser une large part de la population dans plusieurs pays à coups de hashtags, de visuels boostés à l'IA, de vidéos au montage frénétique, mais aussi d'une bonne dose de sarcasme. Hein? Exemple avec la proposition du président malgache de sélectionner des candidats à des postes ministériels sur LinkedIn, tournés en ridicule par les jeunes internautes de l'île. C'est hyper intéressant. Il est très bien, très intéressant cet article. Cette colère sociale portée par une jeunesse connectée et révoltée contre les inégalités s'inscrit dans un mouvement transfrontalier qui a déjà touché plusieurs pays d'Asie ces derniers mois. Le Népal, début septembre, on en avait parlé ici, où le gouvernement a été balayé en quelques jours. Philippines, également en Indonésie. Avant cela, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Kenya avaient connu des mouvements similaires. Au Maroc, des milliers de jeunes actifs sur la messagerie Discord manifestent depuis samedi à l'appel d'un mouvement qui se revendique lui aussi de la Gen Z. Il y a Oni dans le chat qui nous dit: Mon père vit à Madagascar. Sachez que le gouvernement paye des pilleurs pour cambrioler la nuit. Merci d'en parler. Également inédit par son organisation et ses modes d'action, cette demande s'inscrivent toutefois dans la continuité des prélèvements, soulèvements, des précédents, pardon, soulèvements sociaux dans le royaume. Explique un chercheur à Sciences Po Rabat. On retrouve finalement les mêmes slogans avec une demande d'une vie plus digne, d'une meilleure répartition des richesses et surtout de systèmes scolaires et médicaux qui fonctionnent. Ces jeunes voudraient jouer le jeu de la méritocratie, mais constatent que les dés sont pipés, affirme le chercheur. Alors l'article, il est génial, hein. Ce qui est intéressant, c'est que cet article, il crée des liens, des ponts entre ces différents pays et ces mouvements de la jeunesse. À Madagascar, les manifestants revendiquent d'ailleurs directement l'influence de ces mouvements asiatiques nés à plusieurs milliers de kilomètres, mais rendus proches par la culture numérique transnationale et des préoccupations communes, notamment la lutte contre les inégalités et la corruption. MMG a complètement raison. MMG qui écrit, on voit que ce sont des mouvements qui partent de la jeunesse, qui parlent du peuple, hein, qui ne sont pas lancés par des syndicats et des partis, mais MMG nous avertit, et il a raison, ce dont il faut se méfier, c'est la récupération. De la part, alors là tu écris des extrémistes, mais moi je dis de n'importe quelle formation politique, qui peuvent rapidement accéder au pouvoir, semer le trouble dans les pays concernés encore plus. L'histoire a montré qu'effectivement, parfois certains arrivaient à récupérer ce type de mouvement populaire, quoi. Par exemple, ce qui s'est passé au Népal a redonné espoir à la population malgache que c'était possible de renverser le système, que les jeunes peuvent prendre leur destin en main, que la situation du pays n'était pas une fatalité. À partir de là, des petites voix ont commencé à se faire entendre et ces dernières se sont rassemblées sous le mouvement Gen Z Madagascar. On comprend qu'en fait, les événements au Népal, hein, c'est un peu l'effet papillon, ont inspiré une partie du mouvement malgache. Symbole de cette solidarité numérique, le drapeau pirate du manga japonais One Piece, merci Didine, tu régales, vu lors des manifestations en Indonésie et au Népal, à Madagascar, les manifestants utilisent une version remaniée où le chapeau de paille du personnage est remplacé par un couvre-chef traditionnel. C'est passionnant. C'est passionnant. Il est super cet article. Il est très complet. Ok. Ouais. Voilà. Bon, on a pris un petit peu de temps. Peut-être qu'on pourra peut-être pas prendre tout le temps sur tous les sujets ce matin comme on vient de le faire. Mais vous voyez, je suis assez content. On avait deux petits articles sur le Maroc, sur Madagascar. Et on a trouvé celui-ci sur Internet, sur France 24, qui est vraiment très complet et qui essaie d'analyser ces mouvements qui partent de la jeunesse dans des pays très différents et sur différents continents. Donc comme moi je dis, pardon, hein, vous allez dire, mais quel rapport? Quel rapport? Quand je dis... Je vous remets les journaux. Quand je dis les médias traditionnels, hélas, ignorent encore trop souvent ce qui se passe dans les espaces numériques, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, par exemple, ont très peu ou mal parlé de ce que Bailan et Nico ont fait pendant 3 semaines, là. Quand je dis que ces médias traditionnels pêchent par ignorance ou par traitement souvent assez médiocre, de ça, je dis c'est dommage parce qu'en fait ils se privent de clés de compréhension. Là, clairement, l'article de France 24 vient de nous expliquer qu'en fait ces mouvements partaient de la jeunesse qui consomme eux ces réseaux et ces plateformes et utilise ces outils comme Discord par exemple pour se mobiliser. Donc quand tu ne veux pas t'intéresser à ça, quand tu ne veux pas comprendre ça, tu rates des choses. Alors là, avec Bailan et Nico, on est dans le domaine du divertissement, hein, du content. Mais c'est le même problème, c'est un manque de culture numérique. On en reparlera peut-être tout à l'heure si on a le temps de parler de Bailan et Nico. J'enchaîne un petit peu, je suis très bavard ce matin. On en reparlera sûrement demain de toute façon. Ok, on est à combien de... On est à 1h12 de live, on va passer à Trump. Et la guerre intérieure, ce sujet est passionnant. Ok, je vous mets la petite flèche pour ceux qui arrivent. Trump et la guerre de l'intérieur. C'est lui qui utilise ce terme. Qu'est-ce que c'est? Il y a une guerre intérieure aux États-Unis? Waouh! Ça fait un peu flipper. Et vous allez voir que ouais, c'est assez particulier. Ouais. Pour Trump, il y a une guerre de l'intérieur aux États-Unis. De quoi veut-il parler? Certains ont déjà une petite idée, je pense. Voilà, je vous ai mis les petites flèches. qui vont bien. Qui en parle ce matin? C'est Le Parisien. Le Parisien, page 11. Trump veut déployer l'armée pour s'occuper des villes démocrates. Waouh. Défécateur nous dit notre ami, gros dossier hyper flippant. Dans le combat qu'il mène contre ses opposants politiques, le président des États-Unis semble décider à franchir un cap, envoyer les militaires dans les grandes métropoles du territoire américain. Non, le shutdown, on en parlera tout à l'heure avec l'aide, ça n'a rien à voir. Les grandes villes américaines seraient infestées par le crime et le désordre. C'est en tout cas le constat établi depuis plusieurs mois par Trump. Un constat démenti par les chiffres officiels, mais qui permet au président américain de déplacer son combat face aux démocrates sur le terrain de ces grandes villes, quasiment toutes dirigées par les maires du camp progressiste. Ce ne sont quasiment que des villes démocrates. San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles sont des endroits dangereux, dit Trump. Ces villes gérées par les démocraties de la gauche radicale, sont très dangereuses et nous allons nous en occuper une par une. Donc on n'est pas dans une dystopie, c'est pas une fiction. Hein, c'est pas, ce sont des mots prononcés par le président américain. Lors d'un discours au format inhabituel devant 800 cadres de l'armée, accourus du monde entier à Quantico, Virginie, à la demande de leur ministre, le ministre de la Défense, secrétaire d'État à la Défense, puisque tous les généraux de l'armée américaine, y compris ceux qui étaient à l'autre bout du globe, ont dû se réunir en Virginie pour écouter un discours du président Trump. Puis le président américain s'est fait plus précis, puisqu'il a prononcé ces mots en fait devant les militaires, devant les généraux. Voilà, des militaires qui se demandaient pourquoi ils avaient été convoqués en urgence. Et nous aussi, on se posait la question. Cela, a-t-il dit, va être une des tâches principales des personnes qui sont dans cette salle. Ok. A poursuivi Trump, c'est une guerre aussi. C'est une guerre de l'intérieur. Vous avez Trump qui dit aux militaires américains, aux généraux américains, il y a une guerre de l'intérieur. Ce sont ces mots, quoi. Impliquer l'armée dans sa lutte avec ses opposants politiques, il fallait y penser, le président l'a fait, alors qu'il a déjà déployé la garde nationale dans plusieurs villes. Mais désormais, c'est l'armée elle-même, jusque-là uniquement réservée aux opérations de guerre, hein, puisque la garde nationale n'est qu'une force de réserve, qui pourrait être envoyée aux quatre coins du territoire. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que les politiciens ont fini par croire que notre mission consistait à maintenir l'ordre aux confins du Kenya et de la Somalie, a-t-il tenté d'éclaircir le président devant les militaires américains. Cela alors que l'Amérique est envahie de l'intérieur. Encore une fois, ça n'est pas une dystopie. Quelqu'un me parlait d'un film tout à l'heure, là, que j'aimerais bien voir d'ailleurs, parce que quelque part, ça parle un petit peu de ça. Je remonte dans le chat, je crois, avec Kirsten Dunst. Voilà, c'est Lazareth qui m'en parlait. Excellent film avec Kirsten Dunst, Civil War. On y suit des journalistes et des photographes de guerre dans une Amérique en pleine nouvelle guerre civile déclenchée parce qu'un président a refusé de quitter le pouvoir après la fin de son mandat. Pardon, mais quand moi je lis ces mots de Trump aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un film. Et on n'est pas dans un film. Voilà. Donc je reprends les mots du président américain. Hein. L'Amérique est envahie de l'intérieur. C'est comme un ennemi étranger. Waouh! Mais c'est plus difficile à bien des égards car cet ennemi ne porte pas d'uniforme. Au moins, lorsqu'il en porte un, on peut l'éliminer. Ce sont des propos publics qu'il a tenus devant les militaires. Trump compte aller vite en besogne. Il faut s'en occuper avant que ça devienne totalement hors de contrôle. Mais ça ne deviendra pas hors de contrôle une fois que vous serez impliqué là-dedans, dit-il aux militaires. Le président a cité comme facteur de désordre. À quoi pense-t-il concrètement ? Les manifestations contre les pratiques musclées de l'ICE, la police de l'immigration, qui mène une guerre sans merci contre les habitants en situation irrégulière. Donc déjà, les manifestations contre la police de l'immigration, ces manifestations, Trump dit, ben ça c'est l'ennemi de l'intérieur. Il le dit. C'est pas de l'analyse. Il le dit. Les interpellations violentes, les dérapages contre des proches ou des manifestants résistant aux interpellations inondent les réseaux sociaux. De nombreux Américains protestent via pancartes et sit-ins pour empêcher les voitures de l'ICE d'arriver ou de quitter les lieux ciblés, les usines, les fermes, tout ça. Alors, question du Parisien ce matin, Merci le Parisien d'en parler, en vrai, je trouve ça assez passionnant. Les militaires accepteront-ils d'être instrumentalisés dans la guerre politique que compte mener Trump à ses adversaires de gauche? Moi, il y a une question que je pose. Est-ce que ce sont que des mots? Est-ce que ce sont que des délires? Bon, le mec est quand même président de la première puissance mondiale, mais est-ce ou est-ce que ou est-ce qu'il va réellement le faire? C'est une vraie question. Face à l'armée, les précédents chefs d'État américains ont tous adopté une posture de commandant en chef détaché des considérations partisanes. Trump a d'autres visées. Cela a dû faire froid dans le dos des militaires présents qui connaissent la loi interdisant l'utilisation de l'armée sur le plan national de la manière voulue par Trump. A estimé David Axelrod, qui est un analyste politique, ancien conseiller d'Obama. Il y a 2 ans, le général Milley, chef d'état-major des forces armées, s'en était pris à Trump, alors en lice pour un deuxième mandat. Le plus haut gradé américain avait martelé que les militaires devaient servir la Constitution et non se mettre au service d'un dictateur en puissance. À son arrivée dans la salle, avant son discours, c'est le silence qui a accueilli Trump. On m'avait prévenu que je n'entendrais pas un murmure, s'est rassuré le président, évoquant le devoir de neutralité des militaires à l'issue de sa prise de parole. 2 applaudissements ont été en revanche entendus. Merci Maxou, merci Just Alex, merci Thibaut Voyageur, merci encore Didine, merci Samir, merci Borgia, merci Marianne. Je finis l'article. Un peu plus tôt dans la journée, des fuites révélées par le Washington Post ont témoigné d'un climat de forte inquiétude au sein de l'armée américaine concernant la direction que prend leur institution sous la direction de Pete Hegseth, et du pouvoir MAGA, Make America Great Again. De nombreux responsables de l'armée jugeraient très sévèrement les priorités contenues dans le National Defense Strategy, feuille de route communiquée aux forces de défense. Donc certains militaires sont inquiets. Selon ce document, le Pentagone sera recentré sur les menaces situées sur le territoire national et se désengagera des affaires du monde, notamment dans le duel face à la Chine, mais aussi en minimisant la présence en Europe et en Afrique. Voilà. Je vous lis. Diesel, l'armée au service d'un président et plus d'un pays, ça ne sent pas bon. Je vous lis. Il y a Ventrèche qui cite un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle les Guns N' Roses. I don't need your civil war. Je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous lis. Alors, il y a Ocharo qui dit Trump parle beaucoup et mène une politique dite du fou. C'est vrai que dans ses. Je me rappelle de cette analyse, dans ses rapports notamment avec la communauté internationale. Mais il n'a pas les pleins pouvoirs, surtout et heureusement. Sauf qu'on a aussi lu ces derniers temps des articles qui montrent comment la manière dont Trump conçoit son pouvoir de président vise par l'effacement, l'écrasement des contre-pouvoirs. Merci Oblist. Effectivement, tu as vu, on en a parlé tout à l'heure. Il y a Caddy qui dit, est-ce que c'est Étienne qui fait la revue de presse et sélectionne les articles ou il y a une équipe? Non, c'est très artisanal, je fais tout moi-même. Merci aux Parisiens, je trouve, pour cet article intéressant. Certains trouvaient la présentation un peu éditorialisée. Pour le coup, l'article ne fait quasiment que citer des propos de Trump. Il le dit, il le dit, hein. Il le dit lui-même. Quand il dit l'Amérique est envahie de l'intérieur, c'est un ennemi étranger Et c'est plus difficile à bien des égards car cet ennemi ne porte pas d'uniforme, au moins lorsqu'il en porte un, on peut l'éliminer. Ce sont des propos de Trump. Il y a zéro éditorialisation dans. Vous entendez ses propos, vous lisez ses propos comme moi, quoi. Quelque chose me dit qu'on en reparlera. Voilà. Alors, le shutdown. Le shutdown, toujours aux États-Unis. Le shutdown, certains m'ont interpellé hier en me disant, Sam, il faut que tu parles du shutdown aux États-Unis. Bah, déjà, on va définir le shutdown. Donc, je vous laisse sur ce paragraphe Trump et la guerre de l'intérieur, même si c'est un petit peu différent. Qu'est-ce que c'est le shutdown et pourquoi il est intéressant? Faute d'accord budgétaire au Congrès, okay, l'administration fédérale actuellement est paralysée, les services non essentiels seront fermés, les fonctionnaires seront au chômage partiel. Bon, le shutdown, c'est pas nouveau, il y en a eu plein hein, dans l'histoire américaine. Mais parlons de celui-ci. Une fois n'est pas coutume, le jeu de dupes autour du shutdown des États-Unis a mal tourné. Les républicains et démocrates ont échoué à se mettre d'accord pour valider les fonds nécessaires à la mise en place du budget de la nation avant le 30 septembre, à minuit, provoquant la fermeture des services dits non essentiels de l'État fédéral américain. Bon, ils ne sont pas mis d'accord, républicains et démocrates, pour financer certains services de l'État fédéral, et donc ils ne sont pas financés, et du coup, les salaires de certains fonctionnaires ne sont pas payés. Les réunions de la dernière chance ont échoué à réconcilier les deux camps. Trump a bien tenté de s'en mêler lundi, voilà, en recevant les deux représentants de la minorité démocrate au Sénat et la Chambre des représentants. Mais était-ce vraiment une main tendue, s'interroge, c'est l'article, c'est le journal du Le Monde. À l'issue de l'entretien, le président des États-Unis a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo générée par IA pour se moquer de ses opposants. Trump a beau contrôler les deux chambres, parce que certains peuvent se poser la question, quelqu'un l'a posé tout à l'heure, mais attends, je comprends pas comment ils se mettent pas d'accord alors qu'il y a une majorité républicaine à la Chambre des représentants et au Sénat. Bah, c'est bizarre, il a la majorité. Contrairement au président Macron en France qui n'a pas de majorité, vous le savez. Voilà. Mais Trump a beau contrôler les deux chambres, avoir une majorité donc, il a besoin des voix de l'opposition pour faire adopter le texte. Voilà, Laurie Snyder a raison, parce qu'il faut 60 sièges sur 100, 60 votes sur 100. Les lois de financement requièrent une majorité de 60 sièges sur 100 au Sénat. Les républicains n'ont que 53 élus. En échange de leur vote, les démocrates réclament des mesures en faveur de la couverture santé des plus précaires aux États-Unis. Veulent notamment prolonger l'extension de l'Obamacare, l'assurance maladie gratuite à destination des plus pauvres élargie après la crise du Covid-19 aux travailleurs qui se situent juste au-dessus de la limite de la pauvreté aux États-Unis. La mesure doit prendre fin en janvier et les démocrates disent qu'il faut poursuivre ça, quoi. L'absence d'accord plonge le pays dans les affres du shutdown. 750 000 fonctionnaires devraient se retrouver au chômage partiel. C'est quoi la conséquence du shutdown? Dans les jours à venir, les musées, les parcs nationaux, la plupart des agences de l'État devraient fermer leurs portes. La justice a les moyens de fonctionner quelques jours, mais devra ensuite réduire ses opérations. Même si rien n'est précisément prévu par les textes, les fonctions jugées vitales pour le fonctionnement de la nation, forces de l'ordre, police, armée, ou les contrôleurs aériens, eux, sont maintenus. Les fonctionnaires ne toucheront pas de salaire, mais devraient le récupérer quand le blocage est levé. C'est ce qui s'est passé dans les shutdowns précédents. Le dernier shutdown, qui fut aussi le plus long, remonte à 2018, quand l'État fédéral avait fermé ses portes durant 35 jours. Plus d'un mois. Les lois de financement qui nécessitent, donc on l'a compris souvent, des votes bipartisans font toujours l'objet de négociations. L'opposition menace de provoquer la fermeture, pose ses conditions, fait monter les enchères, la majorité se cabre, dit c'est pas possible, fait des va-et-vient, des contre-propositions, le blocage généralement évité dans la dernière ligne droite. Hein, donc c'est pas très nouveau. Chaque camp repart en assurant auprès de ses électeurs avoir remporté la bataille. C'est de la politique. Mais pas cette fois-ci. Les démocrates et les républicains ont fait le même calcul. Dans cette Amérique ultra polarisée, mieux vaut mettre en pause l'État fédéral que de sembler faire des compromis avec l'adversaire. S'il assure ne pas vouloir du shutdown, Trump, et c'est une question que certains me posaient dans le chat, est-ce que Trump pourrait avoir un intérêt à cette situation? S'il assure ne pas vouloir du shutdown, Trump semble y trouver son compte. Après les vidéos moqueuses de lundi soir, Le président est passé mardi à la phase des menaces. Il promet de profiter du blocage pour licencier de nombreux fonctionnaires fédéraux, tout en faisant peser la responsabilité sur les démocrates. Voilà. Déclaration de Trump, deux points, ouvrez les guillemets. Nous pouvons faire des choses pendant le shutdown qui sont irréversibles et qui sont mauvaises pour eux, a-t-il expliqué. Waouh. Ok. Non, pardon, je suis sur une déclaration de Trump, c'est toujours, toujours intéressant à essayer de comprendre. Voilà. Bon, à suivre, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc voilà, voilà pour le shutdown. Dystopie, oui, peut-être un peu, ouais. Je vous lis et on enchaîne. On va vite ce matin parce qu'il y a beaucoup d'actu. Merci la Tote. Merci Maxou. C'est amusant parce que vous parlez beaucoup de ce film Civil War, cette dystopie là. Je sais pas si vous me le conseillez parce que quelqu'un disait que le film n'était pas fou. Quelqu'un l'a vu? Vous me le conseillez ou pas? Bien sûr, Ezen, je lis les deux chats. La flottille, Toff, tu l'as en replay. Si tu vas sur Twitch, tu l'as en replay, tu vas sur YouTube aussi et c'est en podcast aussi audio. Donc tu pourras voir ce qu'on a dit de la flottille de Gaza. Très bon film, très bien. J'ai bien aimé le message dans Civil War. Oui, non, le film n'est pas exceptionnel, me dit Cacao. Le film est incroyable, me dit The Doctor. Film ultra cool. Un peu badant dans le climat actuel, me dit Shepard. Excellente satire, me dit Nisa. Chloé a beaucoup aimé. De rien, Toff. Film incroyable, ok. Ouais, ok, je vais aller le voir. Du coup, moi, c'est un film qui m'avait... J'avais vu la bande-annonce, je n'avais pas trop parlé. Mais au vu de l'actualité aux États-Unis... je pense que je vais aller regarder en fait. On peut le voir sur quelle plateforme? Civil War? C'est Amazon? C'est Netflix? C'est Disney? Je vais aller le voir du coup. C'est sur Prime? Vidéo? Ok. Ok. Bah, je m'envoie un petit message. Oui, il faut le voir et qui plus est, vu avec l'angle du journaliste. Ok. Attendez, je m'envoie un petit message. Donc c'est sur Amazon. Donc Civil War, Sam. Vous aussi, vous envoyez des textos parfois? Civil War. Donc Amazon Prime. Ok. Oh, pardon, hop, je les appelle. J'essaie de lire le chat et... Defecator m'a dit le film est une fiction, il reste imprécis sur les événements qui ont mené à la situation. Par contre, elle est décrite de manière hyper flippante. Donc, on est peut-être plus sur l'émotion que l'analyse de ce qui pourrait mener à cette situation. Ok. Les amis, je propose de passer au sujet suivant. Vous voyez, on est même pas à la moitié. Et on va parler de la Russie cette fois. L'Europe et les drones russes. On est à 1h32. Deux revues de presse pour ceux qui regarderont ce replay. 1h32, on passe à l'Europe et les drones russes avec un article dans Figaro, je crois, qui résume plutôt bien ça. 1h32. Ok, pardon, je fais ma petite manip. Voilà. Et dans les deux sommaires, Twitch et TikTok, je vous mets la petite flèche pour savoir où on en est. Ce dont on a parlé, ce dont on parle en ce moment et ce dont on va parler après. Voilà, ça c'est nouveau, on a fait ça, on a commencé il y a 10 jours, en même temps qu'on lançait les replays en podcast audio, que vous avez sur toutes les plateformes désormais l'après-midi, Deezer, Apple, Spotify, tout ça. Ok, les drones russes, de quoi je parle là? Russes ou pas? Très bonne question. Les Européens cherchent la riposte aux drones russes. Bon, le Figaro estime que ce sont des drones russes. Disons qu'il y a de fortes présomptions, quoi. La flottille Gaza m'a dit, c'est littéralement sous tes yeux, c'est dans le sommaire, on en a parlé il y a à peu près 1 heure. C'est pour ça que, je fais un sommaire, c'est pour que tu saches où on en est. Les Européens cherchent la riposte aux drones russes, mis au pied du mur par les provocations répétées de la Russie dans leur espace aérien. Les 27, donc c'est l'Union Européenne, hein, tentent d'élaborer une réponse commune, il y a eu un sommet, qui passe par une coopération encore plus étroite avec l'Ukraine. Édito de Philippe Gély, drone de guerre. Drone de guerre. Joli. L'apparition des drones a révolutionné l'art de la guerre, chacun le voit, de l'Ukraine au Moyen-Orient. Hein, les drones qui sont extrêmement utilisés par la Russie, par les armées russes et ukrainiennes. Mais ces aéronefs sans pilote jouent aussi un rôle croissant dans les guerres hybrides, plus furtives, dont la Russie s'est fait une spécialité. Ces derniers temps, non content de lancer des salves de centaines de drones sur l'Ukraine, Poutine en envoie quelques-uns musardés dans l'espace aérien de l'OTAN jusque sur l'aéroport de Copenhague, où sont réunis ce 1er octobre les dirigeants européens précisément pour coordonner leur réaction à cette menace. Par son ampleur, limitée quoique potentiellement grave, celle-ci répond exactement aux objectifs du Kremlin, provoquer, inquiéter les membres de l'OTAN, sans pour autant justifier une escalade incontrôlable. Alors que son armée. Merci Anto Conseil pour ce raid. Merci beaucoup. Merci la Tote pour ton message. Alors que son armée piétine en Ukraine, Poutine ne veut sûrement pas élargir le conflit à tout le continent européen, mais en affichant son audace, il espère intimider les soutiens de Kiev, voire les pousser à réaffecter les budgets à leur propre défense. Surtout, il teste la détermination de celui qu'il voit comme le maillon faible de l'alliance, Donald Trump. Les Russes, mais aussi les Chinois, les Iraniens et quelques autres sont déjà à peu près persuadés que le président américain ne viendra pas au secours de ses alliés, si le coût en est trop élevé. Poutine s'efforce de le vérifier, pour son compte et celui de ses amis, en poussant le bouchon chaque fois un peu plus loin, sans réaction bien nette, il faut l'admettre, de Washington jusqu'ici. Or, il est important de mesurer toute la portée de la séquence actuelle, écrit ce matin le Figaro. La décision stratégique de Pékin concernant une invasion de Taïwan pourrait dépendre en partie des leçons qui en seront tirées. Un Taïwan qui craint depuis des années d'être envoyé par l'armée populaire de Chine. C'est un jeu dangereux de la part de ces puissants, tant Poutine dans l'action que Trump dans l'inaction, mais pour les Européens, voilà l'occasion jamais de faire preuve de solidarité et de courage pour rattraper le retard et ériger un mur anti-drone à l'Est. Ils peuvent s'appuyer sur l'expérience et le savoir-faire de Kiev. Poutine n'avait peut-être pas anticipé que l'Ukraine, première armée d'Europe, allait devenir non pas un poids, mais un allié dans cet affrontement. Là, le Figaro fait allusion à l'expérience en matière d'utilisation de drones dont jouit maintenant l'armée ukrainienne. Et on a un article, donc là on a un édito qui d'analyse un petit peu, mais on a un article qui donne davantage les faits, qui est ici, qui est assez court, que j'ai envie de vous lire, écrit par Florentin Collomb, envoyé spécial à Copenhague. Sur ce sommet européen et ces histoires de drones aussi. L'Europe est aujourd'hui dans la situation la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui l'a dit mercredi en accueillant ses homologues européens pour un sommet au château de Christiansborg, à Copenhague. Réunis pour la première fois depuis le mois de juin, les 27 ont pris la mesure de la pression croissante exercée sur eux par Vladimir Poutine. Depuis l'été, les survols de drones, la semaine dernière, non attribués officiellement, c'est important, mais chargés de lourdes suspicions, qui ont paralysé plusieurs aéroports, ont placé le Danemark en état d'alerte. 2 semaines après des incursions en Pologne, en Roumanie et en Estonie. Autant de pays qui ont pointé du doigt la Russie, Poutine, voilà, évoquant de lourdes suspicions. Sans affirmer pour autant avoir des preuves irréfutables que c'est la Russie. Après, on peut se poser la question, quel autre pays pourrait avoir intérêt à envoyer des drones au-dessus de quasiment tous les pays européens, quoi. La France, l'Allemagne, la Suède, la France et la Finlande ont envoyé des hommes et des moyens pour aider à sécuriser le sommet. Mette Frederiksen attendait une réponse très forte, collective. Nous sommes dans une confrontation avec la Russie, a déclaré le président Macron. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, préfère parler de terrorisme d'État plutôt que d'attaque hybride. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, deux points, ouvre les guillemets, la Russie essaie de nous tester, de semer la division et l'anxiété dans nos sociétés. Nous n'allons pas la laisser faire. Les Européens s'étaient donc mis au défi de répondre dans l'unité. Voilà. Sur leur posture de défense par rapport à ces tests de drones, là, et sur leur soutien à l'Ukraine, deux sujets intrinsèquement liés, écrit le Figaro. Selon plusieurs dirigeants européens, la stratégie de Poutine elle est claire. Entraîner la panique parmi ces pays par ces provocations pour les détourner de l'Ukraine et mettre leur solidarité à l'épreuve au moment où s'installe le doute sur l'engagement américain à protéger l'Europe. On a un président américain qui dit que, on l'a lu tout à l'heure ensemble, l'armée américaine, elle ferait mieux d'être utilisée sur le sol américain, hein, contre les ennemis de cette guerre intérieure, je reprends les propos de Trump, plutôt que sur des territoires d'opération à l'étranger. Poutine veut que nous parlions de nous-mêmes, pas de l'Ukraine, pas d'aider l'Ukraine, pas de repousser la Russie en Ukraine, résume le Premier ministre estonien. La Russie tente d'une part d'empêcher les pays européens d'envoyer d'autres systèmes de défense antiaérienne en Ukraine, en les poussant finalement à utiliser ces moyens pour protéger leur propre sol, vous avez compris. Et d'autre part de détourner l'attention de l'échec de l'offensive estivale qu'elle avait annoncée. Merci Vlad Fokov. Merci Black Saphir pour les bits. Je vous lis la fin de l'article. Que je ne perde là. Ça, c'était hier. Ça. C'est là. Ouais, je vous ai lu l'essentiel. Je vous lis maintenant. Oui, alors, il y a beaucoup d'articles aussi sur le navire le navire russe dit fantôme. Appréhendé par les forces françaises au large de Saint-Nazaire. Je vous en ai pas parlé ce matin par manque de temps, mais effectivement, il y a des choses très intéressantes. Peut-être qu'on y reviendra demain. Ouais, y a plein d'articles, ouais. Quel est le but de la Russie pour le coup d'IRD plein de 33, j'arrive pas à comprendre. D'après ce que je comprends de l'article, ce que essaie de nous expliquer le Figaro, c'est qu'en gros, conditionnel, hein, la Russie, enfin, Poutine, testerait d'abord les systèmes de défense européens, ce faisant, chercherait à inquiéter les populations européennes, en espérant que ces populations portent ce message, arrêtez de soutenir les Ukrainiens. Vous voyez bien que ça fâche Poutine. On ferait mieux de s'occuper de nos fesses. C'est le genre de commentaires qu'on lit beaucoup depuis ce matin à chaque fois qu'on parle d'un sujet international. Voilà. Mobilisez plutôt vos budgets militaires pour protéger vos frontières plutôt que de soutenir l'armée ukrainienne, quoi. En résumant à l'extrême le propos du Figaro, c'est à peu près ça. Non, il y a beaucoup d'articles sur la flottille d'Amdou, mais on en a parlé tout à l'heure. Casseur de gauchias qui s'illustre dans un des deux chats tout à l'heure, je me régale, je lis pas tous tes messages parce que on n'est pas là que pour le divertissement aussi. Qu'est-ce que tu as écrit? Juste pour le plaisir. Attends, je te retrouve, tu es noyé. Ah, Le Figaro, ce grand journal de gauche. Merci pour ton analyse. Voilà. Bon, petit article sur les drones. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Oui, je sais. Il faut aussi savoir se divertir. On aura l'occasion sûrement d'en reparler. Un petit peu d'actu en France. Let's go. Et casseur de gauchasse, tu me dis, c'est faux! Écoute, je te laisse travailler sur le sujet tout seul, hein. T'as 3 heures, je ramasse les copies tout à l'heure. Peut-être pas répondre à toutes les questions non plus. Allez, on va passer à l'actualité en France un petit peu. Voilà, on va parler de Lecornu et de ce qu'il prépare, ou pas d'ailleurs, en matière de fiscalité. Lecornu, pour ceux qui l'ignorent, c'est le nouveau Premier ministre de la France. Voilà. Il n'a pas de gouvernement encore, il n'a pas de majorité non plus. On ne sait pas combien de temps il va durer, mais voilà, c'est le Premier ministre. Donc on en parle un petit peu quand même. Même si la situation politique est quand même un peu compliquée actuellement. Ok, 1h44, let's go. Je vous mets la petite flèche sur TikTok aussi. Merci Audrixet pour ton message. Et donc on est sur Lecornu, quelle fiscalité? Ok. Oh, eh pardon, mais l'instrument de live de TikTok, il n'est pas. C'est pas OBS. Hein. Voilà. C'est bon, ça passe. C'est pas. Tu penses quoi de Baleine Nico? Ah bah c'est au sommaire, regarde le tigre, on va en parler tout à l'heure. Ouais, mais on fait dans l'ordre. Salut Samuel, ce serait pas mal un petit jingle quand tu changes d'actu. Comme en radio, ce serait mignon, ouais. Un petit jingle, ce serait marrant. C'est pas une mauvaise idée en vrai. Un petit jingle d'actu, c'est pas une mauvaise idée. Donc, 1h, voilà. 1h44, let's go. Alors. Je résume, on a un nouveau Premier ministre qui a succédé à François Bayrou, hein, qui a fait la bêtise de demander la confiance au Parlement en disant, allez, vous êtes bien d'accord avec moi quant aux recettes pour assainir les finances publiques du pays, on a fait 44 milliards d'économies, donc vous me soutenez et puis l'Assemblée a dit, bah non en fait, bon, et il a dégagé. Donc le président Macron a nommé un nouveau Premier ministre qui s'appelle Sébastien Lecornu, qui n'a pas encore de ministre, puisqu'il n'a pas encore formé son gouvernement. On attend toujours son programme de gouvernement, on attend toujours également son budget pour la France. Et ben, dans ce feuilleton-là, où on attend les prochains épisodes, on a un article dans Les Échos sur les pistes à l'étude sur la fiscalité pour tenter d'amadouer les socialistes. Pourquoi? Parce que ce Premier ministre compte bien ne pas être censuré par les députés socialistes pour pouvoir durer un petit peu. Voilà. Sauf que pour ça, il faut donner des gages aux socialistes, sachant qu'il leur a dit la taxe Zucman, c'est non. Hein, la taxe de 2% chaque année sur le patrimoine des gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine en France. Donc, qu'est-ce qu'il va proposer d'autre? Les pistes à l'étude sur la fiscalité pour tenter d'amadouer les socialistes. L'exécutif a identifié une batterie de mesures susceptibles de retenir l'attention du PS, de renflouer les comptes publics, mais sans trop pénaliser l'économie, puisque Lecornu a dit la taxe Zucman, c'est non, c'est non. À l'approche d'une rencontre cruciale avec le PS et Lecornu, demain vendredi, le Premier ministre étudie de nouvelles pistes pour boucler le budget 2026 tout en ménageant le parti à la rose, le Parti socialiste. Selon nos informations, raconte Les Échos ce matin, l'exécutif a identifié une batterie de mesures visant les grandes entreprises, mais aussi et surtout les particuliers aisés, les fameux aisés. Cocktail qui pourrait dégager autour de 10 milliards d'euros pour l'État et la Sécu, dont les comptes sont à la dérive. Parmi les mesures à l'étude figure l'une des propositions du contre-budget présenté par l'EPS, ça c'est intéressant, la hausse de la CSG, la contribution sociale généralisée, pesant sur les revenus du patrimoine et des placements, CSG qui touche l'assurance vie, l'épargne salariale, le plan épargne logement, les revenus locatifs. L'EPS propose d'augmenter la CSG de 1 point, qui passerait donc à 10,2%, ça dégagerait près de 2 milliards d'euros. de quoi compenser partiellement la baisse de CSG qu'il défend pour doper le pouvoir d'achat des salariés modestes. Selon nos infos, toujours nous disent les échos, l'exécutif s'intéresse de près à cette hausse de prélèvement sur les revenus du capital, même si différents scénarios de hausse sont envisagés, c'est peut-être pas un point, ça peut être 0,5 point, etc. Le sujet est toutefois sensible car toute hausse des prélèvements sociaux en la matière risquerait de se répercuter sur la flat tax, ce prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital de 30%, hein, créé en 2018, ça c'est vraiment un des trucs qu'a mis Macron en place, pour encourager les investissements et l'un des marqueurs de la politique économique dite de l'offre défendue par Macron, qui a baissé les prélèvements sur notamment les revenus du capital, hein, ce qu'on appelle la flat tax. Si la hausse de la CSG sur le capital toucherait les très nombreux Français qui possèdent un contrat d'assurance vie, l'exécutif planche aussi sur plusieurs dispositifs de mise à contribution des contribuables les plus aisés. De quoi répondre aux demandes des oppositions en faveur de plus de justice fiscale, alors que le Cornu a fermé la porte à la création d'une taxe Zucman ou même au retour de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Salut Soufiane. Un levier facilement activable consisterait à reconduire en 2026 la CDHR, qu'est-ce que c'est ? La contribution différentielle sur les hauts revenus, qui est déjà qui a été mise en place l'année précédente, imaginée par Michel Barnier, qui vise à garantir que les plus riches payent un minimum de 20% d'impôt sur le revenu. Contrairement à la taxe Zucman, c'est pas une taxe, un impôt sur le patrimoine, mais sur les revenus. Voilà. Pour que les plus riches payent un minimum de 20% d'impôt sur leurs revenus. Voilà. Alors les partisans de la taxe Zucman vont dire ouais, mais c'est pas le problème. Les ultra riches, les gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, eux, ils savent organiser leur patrimoine pour justement toucher le moins de revenus possible, hein, pour échapper totalement ou partiellement à l'impôt. Voilà. Reconduire cette CDHR une année de plus rapporterait à peu près 1,5 milliard d'euros. Toujours dans l'idée de mettre à contribution les grandes fortunes au redressement des finances publiques, l'exécutif cherche à limiter les possibilités d'optimisation fiscale permises par les holdings familiales. Ça, c'est intéressant. Piste déjà défrichée par l'ancien ministre du budget, Amélie de Montchalin, qui pourrait dégager jusqu'à 2 milliards d'euros. Voilà. Limiter les possibilités d'optimisation fiscale permises par les holdings familiales. Voilà. À cet arsenal s'ajouterait éventuellement, on est toujours dans le conditionnel, hein, un renforcement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, aussi appelé surtaxe Sarkozy, dispositif temporaire instauré en 2012, mais qui se poursuit, consistant à une surtaxe de 3% à l'IR, l'impôt sur le revenu, pour les contribuables déclarant plus de 250 000 euros par personne, 500 000 euros pour un couple, voire même 4% de surtaxe au-delà de 500 000 euros par personne, 1 million d'euros de revenus en couple à l'année. Le rendement de cette surtaxe n'est pas publié, mais il aurait, selon les informations des Échos, dépassé 1,5 milliard d'euros en 2022. Alors, question maintenant, ça ce sont des pistes de réflexion. Sébastien Lecornu va-t-il mettre toutes ses cartes sur la table vendredi quand il va rencontrer les socialistes ? Afin d'afficher un effort demandé aux plus aisés supérieur à l'ancien ISF ou seulement certaines de ses mesures ? Alors ça, on ne le sait pas pour l'instant. Reste à savoir si ce cocktail pourrait apaiser les socialistes, les convaincre de ne pas censurer tout de suite le Cornu. Le fait que le nouveau Premier ministre ferme la porte à une suspension de la réforme des retraites et à une création de la taxe Zucman leur est pour l'instant resté en travers de la gorge. Mais Olivier Faure a fait savoir publiquement, donc c'est le premier secrétaire du PS, hein, qu'il était ouvert à d'autres propositions fiscales. Bon, ce qui va se passer demain est assez intéressant, peut-être qu'on aura ça dans les journaux du week-end. Et après, on va parler de dissolution et de démission aussi. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Et de ma candidature pour 2027. D'abord, je vous lis. Le revenu des milliardaires pop, et l'argent de poche en comparaison de ce qu'ils touchent via les dividendes. Oui, mais après les dividendes, c'est un revenu quand même, Legend Fly. Le problème, la question que pose la taxe Zucman, ce sont les dividendes, c'est sur les dividendes non distribués, qui sont dans le patrimoine et pas les revenus. J'ai bien entendu, tu te présentes, bien sûr. Je me présente et je gagne la présidentielle avec vous et avec un programme qu'on va construire ensemble. Mais on en parlera, tout à l'heure. Alors ça, c'est intéressant ce que dit Augustin, et il y a une partie de la classe politique qui le dit. La taxe Zucman et tous ces pseudo-économistes ont déplacé le débat sur les nouveaux prélèvements. Hein. La taxe Zucman est extrêmement populaire auprès des Français, si on en croit les enquêtes d'opinion. Alors que la solution, selon Augustin, mais il n'est pas le seul à le dire, est certainement de se concentrer sur les dépenses de l'État. Est-ce que la France, pour le dire simplement, est-ce que la France est un pays qui dépense trop par ses finances publiques? Est-ce qu'on a un problème de dépenses plutôt que de recettes en France? À gauche, on aurait plutôt tendance à dire que c'est un problème de recettes. Voilà. On ne dépenserait pas trop. Et donc, il faut trouver des nouvelles recettes, notamment auprès des plus riches. Tandis que d'autres disent, bah non, on dépense au-dessus de nos moyens et on devrait réduire les prélèvements en France, quoi. Donc, ça, c'est un vieux débat gauche-droite, quoi. Ça, c'est à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus. Et si Macron démissionne en 2026, est-ce que tu déplaces ta candidature en 2026? On sera bien obligé. À quoi coûte, on va accélérer le calendrier, quoi. Je vous lis. Hein. Tony Perper écrit: la politique est si fracturée en France. Oui, on a une polarisation très forte du paysage politique, mais aussi des électeurs français. Penses-tu qu'une démission de Macron pourrait réunir la France? Est-ce qu'un changement de République est nécessaire? On en parle dans un instant. Est-ce que tu es la personne qui faisait les émissions à la télé? Non, sérénité. Je suis quand même beaucoup plus beau que le vieux gars là dont tu parles. Bon, quand même. Je vous lis. Il y a Ratak7 qui dit la bonne réponse. C'est certainement les deux. Réorganiser le fonctionnement de l'État, je vois pas comment diminuer les dépenses de l'hôpital et de l'école, et taxer les patrimoines démentiels. Outre les dépenses slash recettes, il y a aussi simplement la population vieillissante, nous dit Hugo Fast, qui met souvent à mal l'économie d'un pays. C'est aussi vrai. La question, c'est comment nous, sociétés concernées par ce problème, on va s'organiser pour faire face à cette nouvelle donne. Collectivement. Si tu te présentes, à quel bord politique seras-tu affilié? Bah, je serai surtout affilié à moi-même et à vous-même. Après, on sera sûrement, on nous collera les étiquettes, bien sûr. On verra bien quelle étiquette on nous collera. Alors, justement, alors, il y a plein de questions sur. On est dans une crise politique qu'on va caractériser simplement. Ah, c'est un message d'une amie de France Info. C'est trop mignon. Je crois que. Alors, c'est une amie de France Info, enfin, qui travaille maintenant pour LCI, je crois. Et qui est dans le métro et qui a pris en photo le téléphone de son voisin, qui est en train de nous regarder sur Twitch. Avec l'accord de ce voisin, puisque manifestement, il lui tend le téléphone. Salue-le de ma part. Voilà. Peut-être même que Alix et son voisin de métro, ou de bus, je vois pas bien. Sont en train de nous écouter. J'espère que tu vas bien, Alex. J'espère qu'on se voit bientôt. Ah, c'est trop chou. C'est trop mignon. Alors, parlons maintenant de ça. Bah, et ça, je l'ai résumé ainsi. Macron, deux points. Dissolution ou démission? On est à 1h58. Merci, Namidi, pour le soutien. Alors, évidemment, c'est une question un peu simpliste, hein. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va essayer d'en parler ensemble. Hop, on en est là. Hop. Macron, dissolution ou démission? TikTok, idem. C'est parti. Alors, bon, déjà, rappelons où on en est. Comment qualifier cette crise politique en France? On a un président réélu pour un deuxième mandat, qui a raté législatives qui ont suivi sa réélection. Voilà, moi, mon analyse, c'est qu'il s'en est pas occupé déjà. Il a enjambé les législatives, oubliant qu'un président de la République, même sous la Ve régime présidentialiste, avait besoin d'une majorité au Parlement pour mener ses réformes. Voilà. Il s'est étrangement peu impliqué dans cette première campagne législative. Résultat, pas de majorité à l'Assemblée. C'est très compliqué. C'est BFM? C'est BFM. Et il a fait pire. Comme il n'était pas content, il a dissous à un pire moment et il a réussi l'exploit d'affaiblir encore plus sa majorité. Waouh! Ça, c'est la situation politique aujourd'hui. Donc, on a cette situation où ben, le président nomme des premiers ministres qui ne durent pas très 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 longtemps parce qu'ils sont soutenus, ils ne sont pas soutenus par une majorité à l'Assemblée. Alors, solution. Demander à un premier ministre à chaque fois de réussir l'impossible, comme là, le cornu. Hein, et le président dit à son premier ministre, bon voilà, c'est impossible, mais tu vas le faire, tu vas me trouver une majorité à l'Assemblée. Hein, sur ma politique, on lui dit c'est pas possible, mais c'est pas grave. Ou alors, dissolution, il demande aux Français de revoter pour clarifier la situation et peut-être lui donner une majorité, sauf que s'il le fait, ce sera encore pire. C'est-à-dire que on sait déjà que le RN reviendra plus fort, que la gauche reviendra a priori plus forte également, et que le camp Macron va être encore un peu plus affaibli. Ou alors, démission du président Macron, et il en appelle aux Français. Voilà. Sauf qu'il a dit qu'il n'allait pas dissoudre. Et qu'il a dit aussi qu'il n'allait pas démissionner. Après, c'est de la politique, tout est possible. Et on a un article dans Le Monde qui est intitulé Le cornu face au spectre de la dissolution de l'Assemblée. Ah oui, démission puis dissolution. Oui, bien sûr, de toute façon, à partir du moment où le président démissionne, il y a une nouvelle présidentielle, le nouveau président ou la nouvelle présidente élue va aussitôt, a priori, dissoudre l'Assemblée pour espérer une majorité forte pour le soutenir. Ça, c'est logique dans l'esprit de la Ve. Je le dis pas tellement c'est évident quoi, mais c'est évident. Le Premier ministre finalise son budget et devrait annoncer la composition de son gouvernement dans un contexte où beaucoup ne voient d'autre issue que la censure. Alors, il y a un gouvernement qui va encore sauter. Elle est dans toutes les têtes. 3 semaines après l'arrivée de Le Cornu à Matignon, alors que le Premier ministre le plus faible qu'ait connu la Ve République comme lui-même se présente, ce qui est quand même fou. Tente de trouver une voie de passage à l'Assemblée pour faire adopter le budget 2026, le spectre de la dissolution de l'Assemblée détermine la stratégie des forces politiques en présence. Le lancement de l'opération, bon, ça c'est du blabla, blabla, blabla. La situation institutionnelle conditionne le jeu des acteurs politiques, des élus, des partis, hein. Depuis le 8 juillet, Emmanuel Macron dispose de nouveau de son pouvoir de dissolution, puisqu'il y a un délai d'un an entre deux dissolutions, dit la Constitution, c'est un cool-down, il a récupéré son ult, pour faire simple, de dissoudre. Si cette dissolution n'a pas été envisagée au lendemain de la chute du gouvernement de Bayrou, le 8 septembre, c'est sans doute en raison des circonstances particulières de celle-ci. Ah. Bah oui, c'est en fait Bayrou, il s'est tiré une balle dans le pied. Ah. Il n'a même pas été censuré, il a dit à l'Assemblée, hey, « Eh les gars, vous me donnez la confiance, hein ?» Vous me donnez la confiance hein, pour mes trucs là. Et l'Assemblée lui a dit ben non. Ah ok, d'accord. Bon, je m'en vais. Depuis, le contexte politique a évolué et pèse aussi sur les protagonistes. La nomination de Le Cornu, réputé pour ses talents de négociateur, pouvait laisser espérer la conclusion d'un accord de non-censure avec le PS. Mais son entretien dans Le Parisien le 26 septembre a jeté un froid et ruiné la confiance. hein, puisqu'il a notamment dit qu'il n'allait pas retenir la taxe Zucman. Les macronistes refusent de renoncer à leurs fondamentaux pour satisfaire des socialistes soupçonnés de vouloir de toute façon censurer le gouvernement. Le Premier ministre a ainsi fermé la porte à une suspension de la réforme des retraites, à la taxe Zucman sur les grandes fortunes, au retour de l'ISF, cher aux socialistes. Donc on attend maintenant la rencontre entre les socialistes et le cornu demain, vendredi. Si rien ne change, donc le résultat est déjà connu, il y aura une censure, donc ce gouvernement tombera et il y aura vraisemblablement une dissolution à laquelle nous sommes prêts, dit Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Il y a une autre hypothèse. Si le gouvernement le cornu tombe, que peut faire Macron? Il peut nommer un nouveau Premier ministre. En disant à nouveau à ce nouveau Premier ministre, mission impossible, baby, va me trouver une majorité. Ou alors, il nomme un Premier ministre de gauche. S'il échoue avec le cornu, il peut se dire, le président Macron, ma dernière chance avant la dissolution de l'Assemblée ou ma propre démission, c'est de nommer un Premier ministre de gauche qui forme un gouvernement de gauche. Bon, j'ai pas la majorité. À charge aux socialistes d'essayer à leur tour de trouver une majorité pour gouverner. Voilà. Puisque vous dites ce que vous avez gagné les dernières législatives, ce que dit aussi le RN, eh bien chiche. Et Simgui me dit ou d'extrême droite. Alors la probabilité que le président Macron nomme un premier ministre d'extrême droite type Marine Le Pen ou Bardella, Marine Le Pen elle est inéligible, mais un poste de Premier ministre, ce n'est pas un mandat, donc elle peut être nommée tout à fait à Matignon. La probabilité que Macron nomme un Premier ministre d'extrême droite aujourd'hui en France est encore plus faible que celle qu'il nomme un Premier ministre socialiste pour des raisons politiques évidentes, quoi. À moins d'un calcul politique diabolique qui serait, ok, je vais nommer un Premier ministre de droite pour qu'il se casse la gueule et comme ça, l'extrême droite ne gagne pas la présidentielle 2027. C'est la politique, tout est possible. Tout est possible. Je continue l'article, j'ai fait une petite parenthèse. Les socialistes, eux, se disent prêts à des nouvelles législatives, puisque, d'après les sondages, ils pourraient revenir encore plus fort, quoi. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette analyse. Dans ce jeu de dupes, le discours du camp présidentiel a évolué ces derniers jours, nous dit Le Monde. C'est Le Monde ou c'est le Figaro? Ah ouais, c'est Le Monde, ok. Où est-ce que j'en suis de l'article? Je suis perdu là, attends, excusez-moi, j'ai perdu mon. Je sais plus où je suis. Présenté jusqu'ici comme inéluctable en cas de chute d'un troisième Premier ministre, la dissolution n'est plus considérée comme automatique dans l'hypothèse où l'ancien ministre des Armées, le cornu, échouerait. Car Emmanuel Macron, au plus bas dans les sondages, est celui qui a le plus à redouter de nouvelles législatives, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au lendemain d'un énième rétrécissement du camp présidentiel, ce sera la démission du président qui sera en jeu. Alors, s'il fait une dissolution encore ratée, et qu'il affaiblit encore son propre camp, les gens vont le regarder et vont dire « Bon, bah maintenant, faut t'en aller, là. Faut t'en aller. » C'est ce que dit notamment l'ancien député de l'Hérault, Patrick Vignal, qui est porte-parole de Renaissance. Démission inenvisageable pour Emmanuel Macron, c'est ce qu'il dit, lui, en tout cas. Son ancien Premier ministre, François Bayrou, imaginait le week-end du 28 septembre que le chef de l'État testerait tous les moyens de contourner la dissolution. Et notamment, et c'est le scénario que j'évoquais tout à l'heure, la nomination d'un quatrième Premier ministre, pourquoi pas issu cette fois de la gauche. Donc cette nomination d'un Premier ministre de gauche serait sa dernière carte pour éviter la dissolution, slash la démission. Voilà, donc du coup, dans les partis, on se prépare, hein, on se prépare à tout ça. Je vous lis pas tout l'article, je vais à l'essentiel. Voilà, mais on en est là. Ça, c'est assez pour le coup, c'est assez lisible. On en est là. Voilà, j'ai essayé de vous résumer un peu la situation politique. Plus les articles passent, plus la rupture peuple-gouvernement est flagrante, nous dit Guillaume. Oui, la rupture, elle est là, oui, c'est vrai. Aucun parti ne veut la place du Premier ministre sans avoir de majorité, il faudrait être fou. Moi, c'est pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a un solide kid qui écrit: s'il nomme un Premier ministre de gauche et que la gauche loupe le coche, ce serait du pain béni pour l'extrême droite pour 2027. Miu-miu, du moment où le président Macron n'a pas respecté les législatives, il y a eu rupture. Voilà. Alors, à quand l'éclaircissement? C'est la question que tout le monde se pose. À quand l'éclaircissement, la résolution éventuelle de cette crise politique? La prochaine présidentielle, en espérant une clarification avec un nouveau président, une nouvelle présidente élue par les Français. Des Français qui, idéalement, dans les législatives qui suivraient cette présidentielle, donneraient une majorité à ce président, à cette présidente, pour que ce chef de l'État ou cette chef de l'État puisse appliquer le programme pour lequel il, elle, aurait été élu, quoi. Alors, est-ce que ce sera un représentant de la droite ou du bloc macroniste même si celui-ci a pris ses distances avec l'ancien chef d'État comme Édouard Philippe? Est-ce que ce serait un candidat de la gauche républicaine type, comment s'appelle-t-il, qui monte pas mal dans les sondages en ce moment, on en a parlé. Comment il s'appelle? Oh, excusez-moi. Non, 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 pas Valls. Non, 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 de gauche. Glucksmann. Ah, qui monte fort dans les sondages, là. Voilà. Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon pour sa énième candidature? Est-ce que c'est un représentant du RN? Hein, Marine Le Pen, si finalement elle n'était plus inéligible, ou Jordan Bardella? Voilà. Voilà. Sinon, il y a Samuel Etienne. Voilà. Qui prépare sa candidature secrète et éclair. Voilà. Sur les réseaux, sur les plateformes, avec la participation active de sa communauté, avec laquelle il construira un programme. Voilà. Voilà. Quand on aura la date de la prochaine présidentielle, on se relève les manches, on y va. Les streams du matin sur l'actu, on poursuit. Et l'après-midi et le soir, on fait des streams de construction d'un programme. On dit, OK, alors le problème, c'est quoi? La santé, OK, allons-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? OK, la sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Allez, aujourd'hui, les relations internationales, etc. Et puis, on s'écoute, on se parle, on essaye de s'entendre, de se mettre d'accord à coup de sondage sur des dispositions qui pourraient former programme. On va chercher les 500 signatures. On propose ce programme aux Français. On passe le premier tour. On est élu. Voilà. On propose au Parlement issu des législatives, à l'Assemblée, de mettre en musique législative les propositions de ce programme pour lequel nous avons gagné la présidentielle. Et puis si ça passe pas, on fait des référendums. Un grand référendum annuel où on interroge les Français sur le fait de sur ces réformes. Voilà. C'est notre programme. Point d'exclamation 2027 dans le chat Twitch. Et après dictature, dit Aucho. Pas tout de suite, pas tout de suite. Comment tu récupères les 500 signatures de maires? Je mobilise la communauté. Je me dis, voilà. Certains vous habitez dans des villes, dans des communes, des villages. Voilà, et donc, pour un projet comme celui-ci, il faut 500 signatures d'élus. Voilà, on fabriqua un PDF, un document ensemble, pour exposer un petit peu notre démarche, pour convaincre ces 500 élus que cette démarche, elle peut être intéressante. Ne serait-ce que dans une perspective de débat, de réflexion sur la politique, sur un programme. Et je pense qu'il y a un moyen de choper 500 signatures. Hein, il y a bien 500 maires qui jouent à Valo, hein. Je pense. Non, peut-être pas. Tu vois, Marmotte me dit, j'irai voir mon maire direct, j'ai mes sources. Voilà. Et hop, une. On se tient au courant. Bon, et attends, j'en suis où moi? Parce que j'ai un taxi qui vient me chercher à midi pour un déjeuner de travail, enchaîné avec une émission, enchaîné avec une projo ciné de travail. Je sais pas si je vais streamer ce soir. Alors, bon, là, on a plus d'articles. Mais on va quand même parler de prendre un petit peu de temps. Je sais pas si tu peux prendre Valorant comme argument. Si. Je suis Silver, hein, quand même, hein. Je suis Silver, hein. La mairesse d'un village et la tante de ma belle-mère, j'espère que elle sera toujours en 2027. Voilà! Merci, MN. Merci, Bardino, pour l'abonnement offert à Defecator. Bon, regardez, là, il n'y a plus d'article. Mais on va essayer d'en trouver, nous, sur Byline et Nico. Parce que ce matin, j'ai lu quoi? J'ai lu Le Monde, j'ai lu Le Parisien, j'ai lu Libération, j'ai lu Le Figaro, j'ai lu La Croix, j'ai lu L'Humanité, j'ai lu L'Opinion, j'ai lu Les Échos, j'ai lu L'Équipe, et je n'ai pas trouvé un seul article sur l'épopée de Bailan et de Nico, hein, qui s'est achevée hier à Levallois, avec ses 220 000 viewers en direct qui regardaient ça, avec ses centaines de milliers d'internautes qui ont suivi leurs aventures pendant 3 semaines. Voilà. Dans ces... Ah oui, bien sûr, Brut a fait un truc, je crois qu'ils vont être reçus ce soir par Quotidien, des petites choses. Mais voilà, dans ces journaux de qualité, rien. Alors, si on va sur Internet, ces mêmes journaux ont sûrement fait des articles. Mais qu'ils n'ont pas mis en une, qu'ils n'ont pas mis dans leur PDF, dans leur version papier, quoi. Le Monde a fait un papier ce matin, on va aller le voir. On va aller voir, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire une petite recherche. Alors, TikTok, je vous mets la recherche pareil aussi. Oula, merci Théodorant, tu régales. Merci pour les 5 abonnements offerts à la commu. Bon, d'abord, on va peut-être changer le sommaire. Bailan et Nico. Oh, faut que je mette le TC aussi, on a combien là? Attendez. Bailan et Nico. Ouais, on est bien. J'ai mon taxi dans une demi-heure, on va pouvoir prendre un petit peu de temps sur le phénomène. L'épopée Bailan et Nico. Et on est précisément à quoi? Attendez, bougez pas. On est à 2h15, ok. Toujours mon histoire de sommaire. Ok, 2h15. Ça, vous allez pouvoir me dire ce que vous avez pensé de cette aventure. Et sur TikTok, je vous l'ai mis aussi. Je l'ai mis aussi. Ok, super. Donc, et si on trouvait les infos là-dessus. Donc, je vous enlève ça. Je vous rajoute ça. C'est parti. Ah, Bailan et Nico. Lan, Nico, bim. Actu. On va en trouver les articles. Seront-ils intéressants? Seront-ils pertinents? Voilà, on a un article du Monde qui a été publié une quinzaine d'heures. On a un article du Huffington Post qui a été publié à 13h. Un article du Parisien publié il y a 15h. Donc, c'est des articles qui ont été publiés hier soir sur les sites internet de ces journaux. Hein. Télérama aussi. Téléloisirs. Il y a ça, on l'a lu hier, celui-ci. Voilà, on va essayer de faire un crible actu, même trié par pour voir les plus. Voilà, BFM a fait un sujet il y a 23 minutes. Également. Voilà, qu'est-ce qu'on va voir? On peut aller voir le HuffPost en général, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font sur le numérique. Nico et Bailan ont enfin achevé leur périple à pied, débuté à l'issue d'un The Event 2025 record, comme ça. Quoi? Sur TikTok, vous l'avez, hein? C'est bon, hein? Vous l'avez sur TikTok? Vous l'avez? L'article du HuffPost? Vous l'avez pas? Vous l'avez pas? Je vous l'ai pas mis? Ah, vous avez la tablette. Je vous l'enlève, la tablette. La tablette! Voilà. Là, vous l'avez normalement. Voilà. Là, vous l'avez. Pendant le parcours, ils ont marché, je rappelle les infos pour ceux qui ne l'ont pas, la tablette. Une quarantaine de kilomètres par jour. Waouh. pour réussir le défi un peu fou qu'ils s'étaient lancé à l'issue de leur première participation au The Event de Zerator, puisque tout est parti du The Event. Et d'ailleurs, Zerator était hier soir à Levallois-Perret pour les accueillir, comme PA était là, comme Flamby était là aussi. Non sans difficulté, ils l'auront fait. Qui écrit l'article? Toujours se demander qui écrit. Maxime Birken, dans le HuffPost. Le dimanche 7 septembre, le The Event récoltait la somme ahurissante de 16 millions d'euros. Vous y fûtes. Parmi les streamers présents durant l'événement caritatif de Zerator, les petits nouveaux, Nico et Bailan, première participation, avaient fait sensation durant cette première édition, mais ils n'imaginaient pas sans doute qu'ils redescendraient réellement sur Terre 24 jours plus tard. Et d'ailleurs, quelqu'un nous le disait aussi hier soir, finalement, une des choses qu'ont fait Bailan et Nico, c'est qu'ils ont poursuivi, je crois, quelque part, le The Event. Et ils nous ont permis de ne pas tout à fait atterrir brutalement après ce The Event. Quoi. Caméra barrée, pas de webcam. Ah oui, pardon, je vous ai viré la caméra. Mais rien qui va. Attendez, c'est mes sources qui sont pas bonnes. Oh, merci. Voilà. Et là, voilà. Et la capture de l'écran. Voilà. Là, on est bon. Excusez-moi, je vais virer la caméra. Car à l'issue du The Event 2025, les deux amis streamers s'étaient donné pour défi de rallier Montpellier à Paris, à pied, sans véritable aide extérieure. Défi entièrement réussi ce mercredi 1er octobre, après un départ de Montpellier le 8 septembre. Devant une foule imposante, le duo a mis fin à ses 880 km de marche, malgré quelques soucis rencontrés en cours de route. Le tout évidemment filmé en live sur Twitch, et ce depuis le début du périple. Ils sont finalement arrivés à Levallois-Perret, leur destination finale, au début de soirée, devant leur public et d'autres créateurs de la plateforme, comme Domingo, venu les féliciter pour ce défi pas comme les autres. Il y avait plus de 200 000 spectateurs sur Twitch hier soir. Fous de joie, ils ont répété sans cesse ces faits après près d'un mois d'efforts et de contraintes sur les routes de France. Pour l'occasion, les deux compères qui se sont récemment illustrés durant un imposant concept vidéo du youtubeur Michou s'étaient habillés en costume cravate. Moi, j'ai beaucoup aimé le costume cravate pour l'entrée dans Paris. C'était quelque chose. Quand j'ai vu ça sur mon ordi hier après-midi, là, sur un toit, je me dis putain, ils sont forts. Ils sont forts quand même. Sans abandonner les peluches accrochées sur leur sac depuis le début du voyage. Les peluches, elles venaient d'où d'ailleurs? C'était des gens qui leur offraient ou pas? Oui, il y avait un petit S qui manquait, on a vu. Ouais. Ils ont été chercher le costard en live. Ils sont rentrés dans une première boutique. Le mec a pas voulu la caméra. Ils sont allés dans une autre. C'est incroyable. C'est les viewers, les abonnés qui les offraient. C'était offert. Preuve de leur bel exploit, une coupe symbolique leur a été remise à leur arrivée pour marquer le record de la chaîne Twitch française avec le plus de vues en un seul mois. Il faut dire que depuis le début de leur défi, ils ont été suivis de près par leurs abonnés. Et la diffusion en live sur Twitch de leur aventure a été suivie chaque jour par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Chiffre particulièrement élevé et plutôt rare pour un contenu comme celui-ci. Déjà, constatons que dans cet article du Huffington Post, il n'y a pas d'erreur factuelle sur l'événement, comme il arrive assez souvent dans les articles des médias sur les événements, sur les réseaux et sur les plateformes. Quoi. Nico et Bailan pouvaient compter sur le soutien sans faille de leurs communautés respectives, suivi par plus de 1,5 million de personnes sur Twitch. Bailan est l'un des streamers les plus populaires de France et affiche plus de 2,1 millions d'abonnés sur TikTok.
Waouh.
Nico cumule près de 1,3 million d'abonnés sur TikTok, avec plus de 600 000 fans sur Twitch. Ça, c'était une des premières photos qu'ils ont postées. Voilà, on a les stats, là. On a les stats. Top de monde sur Twitch en septembre. C'est la France, ça, mesdames et messieurs. 614 heures diffusées. 30 000 spectateurs en moyenne. Voilà. En intégrant sans doute les lives la nuit où ils dormaient, où ça baissait. 45 000 subs. 300 000 followers gagnés. 18 millions d'heures regardées, record français pour un stream. Ouais. Un succès qui aura causé son lot de désagréments, au point de contraindre les deux amis à être escortés par les agents de sécurité sur le chemin de la capitale. en cause de nombreux débordements provoqués par des groupes de jeunes obnubilés à l'idée de faire une photo avec eux. Ce qui a provoqué un accident de la route et plusieurs gestes déplacés comme des jets d'œufs, sans oublier les attroupements dangereux autour d'eux dans des zones absolument pas sécurisées, adaptées pour ce genre de rassemblement à l'improviste. Bien sûr, bien sûr. Malgré tout, Bailan et son compère Nico ont toujours tenu bon. Hein. Rappelons-nous des premières fois où nous avions évoqué cette marche au début et que beaucoup disaient ici même, oh, ils n'iront pas au-delà de Montélimar, ils n'iront pas au-delà de Lyon, et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Voilà. En faisant de la pédagogie avec un public souvent très jeune et pas toujours conscient du danger. Voilà, un article que je trouve plutôt pas mal en vrai. Tiens, par curiosité, que dit BFM? Moi, je ne consomme pas les chaînes d'infos en continu, mais on a peut-être un article de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est un article? Bon, c'est un tout petit article, il n'y a pas beaucoup d'infos. Donc, on n'a pas de nous. Voilà, c'est très sobre. Et on retrouve étonnamment les mêmes infos que dans l'article du Huffington Post. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'essentiel de ces infos viennent du dépêche de l'AFP, de l'agence France-Presse. Et du coup, on retrouve des éléments de langage qui sont quasiment les mêmes. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que le Huffington Post a précisé que cet article avait été beaucoup écrit avec l'AFP? Normalement, c'est une obligation de dire que quand tu t'inspires beaucoup d'une dépêche. Ok, bon. Il y a quand même des passages qui sont strictement les mêmes. Ok, bon. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Peu importe. Donc, BFM ne dit pas grand-chose. Un article du Parisien qui était aussi écrit. Merci, ça va, tout va bien. « 250 000 viewers, c'est monté à 250 000 hier soir? Donc, on a une photo. Moi, je trouvais ça très. Oh, c'est rien, ça. C'était beau hier soir, là. 240 000? Moi, j'ai trouvé ça très très beau. Certains étaient peut-être sur place d'ailleurs hier soir. Certains étaient à Levallois hier soir. À l'arrivée, me dit tout petit lui, ouais. Ils ont surtout maintenant un fort capital sympathie, me dit Sixtus. Ils sont moins des streamers niche. Ils sont devenus streamers grand public avec une audience hyper éclectique. C'est vraiment chouette, je trouve. Tu n'as pas tort. Quotidien les a filmés sur la dernière heure. Ils vont sûrement avoir un petit reportage ce soir aussi. Je crois savoir même qu'ils sont invités ce soir de Quotidien. Hein, est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Le pari était fou, l'arrivée grandiose. Non, moi c'est une info que j'ai entendue moi. Je sais pas, je lis que rien. Non, j'ai entendu cette info hier. Saint-Pierre me dit, je confirme, ils sont dans Quotidien ce soir. Plein de spoil? Non, bah, tout le monde en parle depuis hier. Putain, faut vous tenir au courant. C'est l'info que j'ai entendue, mais je ne sais pas si elle est annoncée officiellement par Quotidien. En plus, Quotidien, ils ont quitté X, ils ont quitté Twitter, donc ils communiquent plus sur Twitter, si je dis pas de bêtises. Mais à vérifier cette info, hein, je l'ai entendu hier, mais je sais pas si c'est vrai. Si quelqu'un trouve l'info, vous me le dites. Le pari était fou, l'arrivée grandiose. Mercredi 1er octobre au soir, les streamers Nico et Bailan ont terminé leur incroyable périple de 878 km sous les yeux ébahis de plus de 250 000 spectateurs connectés en direct. Merci Café Olé, merci Astéroïde. Défi titanesque qui aura propulsé le duo au sommet du classement des streamers les plus visionnés en septembre. 18 millions d'heures de visionnage, témoignant de l'engouement suscité par cette aventure hors du commun. Donc là, on a à peu près les mêmes infos qu'on avait sur le Huffington Post et BFM. Leur traversée de Paris s'est transformée en véritable procession. Plus ils s'approchaient de Levallois-Perret, plus le cortège grossissait avec plusieurs dizaines de personnes marchant derrière eux. Moi, à un moment, je les ai vus, ils étaient devant le Louvre. Le cortège s'est même étoffé avec l'arrivée surprise des youtubeurs Inoxtag et Joyka, provoquant l'enthousiasme de la communauté connectée. Alors ça, j'ai pas compris ça.
Non, vous arrêtez pas, tu vois.
Ça, c'est l'accident de la voiture, ça. J'ai pas compris à un moment le. Alors, j'ai vu qu'il y avait Joyka et c'était qui? C'était Inox, c'est ça? Et c'était prévu, c'était une surprise. Je sais pas si vous avez suivi ça. C'était organisé. C'était un happening. D'accord. Mais est-ce que c'était prévu? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sont rencontrés par hasard? Ou est-ce que c'était préparé? C'était le sens de ma question. C'était prévu, il l'avait annoncé durant la manche. Durant la marche. D'accord, ok. D'accord, ok. C'était prévu, mais il n'y avait que Bylan qui savait, Nico n'était pas au courant. D'accord. C'était un happening, un genre de crossover du tournage d'une vidéo YouTube en même temps que sur la... Ok. Ok, Joyka Inox, surprise pour Nico et les viewers, organisée par la prod de Bylan. Ok, c'est extrêmement clair. Ok, merci beaucoup. Et moi, j'avais pas l'info, en fait. Pour les accueillir sur le parvis, le Twitcher, Hamza Kerdaloko était notamment présent, témoignant de la mobilisation de la communauté des créateurs de contenu pour célébrer cet exploit. Putain, je suis nul. C'est qui, Hamza Kerdaloko? J'ai vu qu'il y avait PA. J'ai vu qu'il y avait Zera. J'ai vu qu'il y avait Flambi. C'est qui, Hamza Kerdaloko? Merde, j'ai honte. Hamza Paris? Désolé. T'es pas nul, je connaissais pas non plus, me dit Bardino. Un ami de Kamel? Il était derrière toi à la Zidane? Merde. D'accord, désolé. Ok, je l'ai vu au The Event. Eh ben, j'ai aucune mémoire. Co-président de la Kings League avec Kamel. Merde, bon, ok, maintenant je sais, ok. Hamza Paris. Ok. Ok. L'organisation avait mis les petits plats dans les grands, donc là on arrive de cette fin de stream qui est comme un feu d'artifice. Un tapis rouge menait jusqu'au cordon rouge de l'arrivée, le long duquel étaient installés des effets pyrotechniques pour rendre le moment encore plus spectaculaire. Au moment de franchir cette ligne d'arrivée symbolique, c'est Domingo, Twitcher. Pourquoi Twitcher? Attends les amis, je m'arrête sur un mot, mais vous dites Twitcher, vous? Vous validez Twitcher? Non. Non. Mais qui dit Twitcher? Personne. Non, on est d'accord. On est d'accord. Oui, streamer, oui. Oui. Bah oui, les mecs se disent YouTube, YouTuber, Twitch, Twitter. Ouais. Oui, on est d'accord, on dit streamer. Bon, peu importe, c'est des mots, mais bon. La presse le dit. Ouais, les yeufs. Donc, au moment de franchir cette ligne d'arrivée symbolique, c'est Domingo, Twitcher très suivi, et présentateur de l'émission Popcorn qui les accueillit en criant « Vous l'avez fait, les gars, ça j'ai vu ça. J'étais à la maison. » La mairie de Levallois s'était portée volontaire pour accueillir l'événement, considéré comme le lieu le plus sécurisé par les organisateurs, avec un dispositif spécial incluant un filtrage des entrées initialement prévu devant les bureaux de Webedia. L'arrivée avait dû être déplacée en raison notamment de la proximité des locaux de la DGSI. Ah oui, à côté de Webedia, il y a la DGSI. D'ailleurs, souvent, près de Webedia, les portables, c'est très compliqué d'avoir la connexion parce qu'il y a plein de brouilleurs. C'est un peu bizarre, mais il y a plein de brouilleurs. Je valide le pas trop dur. Ouais, c'est le bordel, parce qu'il y a la DGSI pas loin. Donc, en termes de co, parfois, c'est compliqué. C'est pas en face, c'est dans la rue à côté. Elle déménage la DGSI? Eh ben, très bien, parce que c'est le bordel au niveau de la co. Voilà. Je suis heureux de retrouver une vie normale, confiée avec soulagement Nico après cette aventure humaine hors du commun. Un périple qui a permis à l'événement du The Event organisé depuis 10 ans de récolter la plus grosse donation jamais enregistrée. Hein? Ah non, ça n'a rien à voir ça. Ah non. Ah bah non, là par contre, c'est dommage, l'article était plutôt bien. un périple qui a permis à l'événement du The Event organisé depuis 10 ans de récolter la plus grosse donation jamais enregistrée. Il n'y a aucun rapport. Le The Event, il s'est terminé il y a 3 semaines avec un record 16 millions d'euros lié notamment à la participation de Bailan et Nico et de tous les autres en présentiel et en distance. Mais ils sont bêtes. Ils n'ont rien compris. Non, mais là, les 3 semaines de marche, ça n'a rien à voir avec la cagnotte du The Event. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous leur expliquerez. C'est une erreur parce que Zera a dit vous avez fait le plus gros donation goal du The Event. Eh oui. Le plus gros donation goal. C'est vrai que c'est le plus gros donation goal. Mais l'argent qu'ils ont collecté pendant cette marche ne va pas au The Event. C'est dommage, il manquait juste. On est quasiment à la fin là. C'est pas grave, c'est la petite glissade sur la ligne d'arrivée, ça arrive. Mal exprimé ? Non, c'est pas mal exprimé, ils ont juste pas compris. C'est pas grave, on était à un mot du perfect. Oh, il est pas mal cet article en vrai. Il y a eu un article du Monde que j'ai vite lu ce matin, qui n'était pas foufou. Peut-être que je dis une bêtise. Voilà, déjà, l'article du Monde que j'ai trouvé sur le sujet, il met l'accent dans son titre sur les questions de sécurité. Bon, c'est un choix. L'arrivée sous contrôle des streamers. Jalonné de rencontres avec les fans, mais aussi d'agressions. Donc, quelqu'un qui va pas lire tout l'article. Il y a beaucoup de gens qui lisent que les titres, qui lisent que les premières lignes. Quelqu'un qui va s'arrêter là-dessus, il va penser que l'essentiel de ces 3 semaines, ça a été des problèmes de sécurité. Ça n'est pas faux, il y a des problèmes de sécurité. Mais est-ce que c'est l'essentiel ? Quand vous le mettez dans le titre, vous dites que c'est l'essentiel. Voilà. Et donc, en fait, l'information essentielle pour le monde, c'est pour éviter tout débordement, un important dispositif de sécurité était pour l'arrivée. C'est une des informations importantes. Le fait qu'il y a eu des problèmes de sécurité, qu'ils ont dû faire appel à des sociétés de sécurité. C'est une des informations importantes. Est-ce que c'est l'information essentielle ? C'est ça le débat. Et c'est ce que semble dire ce titre. Et c'est un peu dommage. Rappelons qu'il y a plein de gens qui ne lisent que les titres. Encore plus vicieux parfois, des articles, c'est le cas de celui-ci. Alors je vais être encore plus méchant et encore plus en colère. Cet article, on y a accès parce que je suis abonné. Vous voyez, c'est marqué ici. Article réservé aux abonnés. C'est-à-dire que les gens qui vont cliquer sur cet article, qui ne sont pas abonnés au Monde, je ne sais pas si vous êtes très nombreux à être abonnés au Monde, ils ne vont avoir accès qu'à ça, qu'au sous-titre, et aux premières lignes. Donc ça veut dire que 99% des gens qui vont cliquer sur cet article vont retenir que c'est d'abord une histoire de sécurité. Parce que 99% des gens ne sont pas abonnés au Monde. Voilà. Alors le reste de l'article est peut-être beaucoup plus équilibré, mais là on est pour moi à la limite de, ouais, j'allais dire des informations, le mot est un peu sévère, mais voilà, je suis pas d'accord avec ça quoi. Voilà. Alors que l'article parle sûrement d'autre chose, mais la plupart des gens n'y auront pas accès. Donc le pire, c'est que l'auteur de l'article n'est peut-être même pas fautif, parce que bon, moi, j'ai déjà posé la question à des journalistes en disant « Mais putain, ton titre, il est pourri, quoi. Ton article, il est bien, mais ton titre ne reflète absolument pas le contenu de ton article et ne reflète pas non plus la réalité du fait. » Et vous savez ce que le journaliste me répond ? J'ai déjà eu ce genre de débat avec des journalistes. Et vous savez ce que le journaliste me répond ? Et c'est gravissime. C'est le marketing ? Non. C'est une IA ? Non. Faut faire du clic ? Non. C'est pas moi. C'est un autre service, souvent dans les rédactions. Le titre n'est pas forcément écrit par le journaliste. Le titre, il est fait par un autre service, le secrétariat de rédaction, voilà, qui est chargé de la mise en page. Et c'est un autre journaliste qui va lire l'article et qui va choisir le titre. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Voilà. Et souvent, la personne chargée de faire ça va du coup créer l'article, le titre qu'il veut, et quelque part va vouloir faire un titre accrocheur. Un titre accrocheur pour qu'il va donner envie de lire, qu'il va donner envie de cliquer. Quitte à ne pas refléter forcément le contenu De l'article. Moi, j'ai eu un souci avec un article, je crois, du Monde, il y a quelque temps. Et j'ai posé cette question, mais pourquoi ce titre? Et le ou la journaliste m'a répondu, ah, mais c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui ai fait le titre. Ah ouais, mais je dis, mais c'est grave, c'est ton article. Et le titre de ton article, que tout le monde va lire, alors que 99% des gens qui ne sont pas abonnés ne vont pas pouvoir lire l'article, eh bien, il ne donne pas, il ne nous dit pas réellement ce qu'il y a dans cet article. Voilà. Et ça, c'est dommage. Voilà pour ce titre. Et si on lit l'article, vous verrez qu'il ne parle peut-être pas que de sécurité. Voilà. Donc là, on parle des stats. Ok. De la fatigue. De la distance. Bon, 700 km, je crois qu'on est plus proche de 870-880. Voilà. Du The Event. Ok, vous voyez, ça parle pas de sécurité, hein. Du fait qu'ils sont allés dormir chez l'habitant, dans une ambiance rappelant les émissions Pékin Express et J'irai dormir chez vous. Voilà. De la passion qu'il y a eu sur les réseaux sociaux entre périples ruraux, délires, discussions ponctuées de rencontres avec la jeunesse de France. Oui, c'est pas un article sur la sécurité. Et à partir d'un certain moment, mais assez loin, vous voyez, on a effectivement les débordements ont été nombreux entre jets d'œufs, accidents de voiture, attitudes irrespectueuses de jeunes fans et de leurs parents qui voulaient à tout prix décrocher un selfie ou une dédicace. Donc l'auteur de l'article nous parle de la question de la sécurité, mais n'en fait pas l'essentiel de l'article. Il en parle au milieu, un petit paragraphe. Et pourtant, encore une fois, c'est le titre, l'arrivée sous contrôle. Les fans, les agressions. L'important dispositif de sécurité. Et il y a plein de gens qui ne vont lire que ça. Vous voyez? Là, on a un petit problème. Là, on a un petit problème. Et là, cette pratique est courante. Voilà. Mais le journaliste qui a écrit cet article, lui, n'a pas écrit un article sur la sécurité. Voilà. Des stats, du Monde, l'ambiance à Levallois, la séquence avec Inox et Jordan et Joyka. Voilà. Là, on reparle un petit peu de sécurité encore, voilà, avec voilà, cette entrée dans Paris est néanmoins restée pour le moins mesurée en termes d'ambiance, à rebours des heures ayant marqué leur passage dans plusieurs villes, hein. Ils ont dû être encadrés par la police à l'approche de Lyon, dispositif de sécurité d'une dizaine de personnes autour des deux streamers pour encadrer la petite procession de fans. Donc voilà. Ouais. Et le fait qu'à Levallois, il y avait de la sécurité. Ce qu'en soi n'est pas choqué, quoi. Mais voilà. Mais l'article est plutôt sympa en vrai. Encore une fois, moi je ne dis pas que la question de la sécurité. Oh, putain, j'ai mon taxi dans 9 minutes. Merde! Ok. Je ne dis pas que la question de la sécurité n'est pas importante. C'est un des éléments intéressants. Hein, comment expliquer les débordements? Pourquoi les jeunes fans se comportent comme ça? C'est de façon un peu irrespectueuse. Comment ils se mettent en danger sur la route? Voilà. Tout ça, c'est un vrai sujet. Mais c'est une information importante. Ça n'est pas l'information la plus importante. Vous voyez? C'est une information importante parmi d'autres. Bon, vous, il me reste quelques minutes avant que je saute dans un taxi pour aller bosser. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce périple? De positif ou de négatif? Et hop, TikTok, je vous mets ça. La tablette, moi aussi. Ça m'a donné envie de marcher, me dit Moss Man Hawks. Tous les soirs chez les familles, les différentes histoires. La gentillesse des familles, la gendarmerie aux petits soins. Vous voyez, c'est dommage, moi je vois pas ça dans les articles que j'ai lus ce matin. Et effectivement, je trouve ça très intéressant. Ils sont attachants tous les deux, me dit Alex, et les gens sont fous. Détermination, défi de fou, perte de fou, me dit Warlord. La détermination et l'amour de la communauté. Bah, vous voyez, moi j'aurais aimé lire plus de lignes sur ça. Salut Emmanuel, me dit la belle douille. Beaucoup de personnes de mon entourage me font la réflexion que Twitch et ce genre d'événement, c'est la culture du vide. Que répondre à ça? Bah déjà, je vais demander à Emmanuel. Alors je ne sais pas de qui tu veux parler. Je vais chercher qui dans mon entourage s'appelle Emmanuel. Et pour répondre à cette question que tu poses à Emmanuel, je vais te dire que bah, ce n'est pas la culture du vide. Cet événement, il est vraiment extrêmement intéressant. C'est un contenu intéressant que les plus anciens ont peut-être du mal à comprendre, mais il y a quelque chose, voilà, dans les rencontres avec les familles, dans les échanges qu'il y a eu, dans les parcours des deux créateurs de contenu, le parcours de Nico notamment, qui a eu une enfance extrêmement compliquée, qui est un enfant qui a été placé, quelque chose dont il parle lui-même et qui l'a marqué. Enfin, voilà, c'est un contenu intéressant. On n'est pas sur la culture du vide, absolument pas. J'ai retenu les moments avec les familles, j'adorais regarder le stream en fin de journée. Un bel événement sportif qui vient d'un événement caritatif, me dit Blist. Bardino, une aventure humaine extraordinaire qui a rassemblé les gens de tous les coins de France. C'est un peu ça que j'aurais voulu lire dans les articles. Hein, Odlinox me dit cet argument de la fameuse culture du vide cache souvent une forme de mépris de classe ou de mépris générationnel. Que c'était compliqué, Nico Nito, au niveau sécurité, mais que c'était super ce qu'ils ont réussi à faire. La personne formidable qu'est Nico, me dit Lénade, et je suis bien d'accord avec toi, tous les deux en vrai. La bonne ambiance. Appris à connaître Bailan et Nico, ils ont l'air d'être vraiment bien, les rencontres. Exploit caritatif et émaillé d'incidents. Alors pour le coup, la marche n'est pas caritative en tant que telle. Hein. Elle est issue d'un donation goal caritatif. Du The Event, mais la marche en elle-même, si tu as raison, quelque part, c'est la réalisation de ce donation goal, donc oui, tu as raison. Si, 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 si. Les rapports humains, le petit avec l'iPad, les rires, me dit Remake, la folie des gens, l'agressivité par la jalousie, l'histoire des œufs. Incroyable périple, incroyable commu, beaucoup d'émotions, je vous lis. Hein. Rien négatif, gros manque aujourd'hui de ne plus pouvoir les suivre. Mon taxi. Allez, 55, faut que je vous laisse. Bon, désolé. Bon, je voulais qu'on regarde le best-of hebdo de la chaîne aussi, mais on n'aura pas le temps, c'est pas grave, j'ai voulu le faire hier aussi. Ce sera pour ce soir ou demain matin. Les amis, je vous abandonne sur TikTok, je vous dis à demain matin pour la revue de presse. Ce soir, live sur Twitch, je sais pas, parce que la journée est très très grosse, je sais pas s'il y aura du gaming ou pas, en tout cas, au plus tard demain sur la revue de presse, c'est sûr. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin, vous êtes formidables. Merci de la qualité des échanges et tout. Pardon, j'ai vraiment été très rapide sur l'actu ce matin, il y avait beaucoup de choses. Amis TikTok, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Voilà. Amis de Twitch, nous on va se quitter maintenant, mais en faisant un raid bien sûr. D'autant que vous êtes. Waouh, je n'avais pas vu, vous étiez super nombreux, ok. Donc qui est en live actuellement? Voilà. Merci pour les petits messages, vous êtes adorables. Qui est en live? Ouais. Ah oui, il y a ce jeu là, Ghost of. Qui vient d'arriver là? Il y a plein de gens là. Plein d'amis en live. Qui on va voir ce matin là? Il est sur quoi mon ami là? On sent que je vais pas arrêter mon ami là. C'est quoi ce jeu là? C'est quoi ce jeu là? C'est quoi ce truc? Bah, je sais pas, je vois plusieurs amis là en live sur un jeu qui s'appelle Mega Bonk. Mega Bonk. Je sais pas ce que c'est. C'est bien ça? On se méga le bon toute la journée. C'est bien ou pas? Je vois plusieurs amis. Bon, ok? Je vous envoie vers un stream de Méga Bonk. C'est un roguelike sorti la semaine dernière, hyper addictif comme jeu. C'est la drogue du moment, il est addictif le jeu. Ok, let's go. Bon, on y va. C'est parti. On a 3 minutes avant le taxi. Ok, il y a l'ami notamment Shones. Celui qui m'a fait découvrir TFT, j'allais dire TNT, il y a quelques mois, qui est en live actuellement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas raid. Mega Bonk, Shones. Sachez qu'Anaë est aussi en live sur ce jeu. Je lance le raid et je vous retrouve Ce soir, c'est pas sûr. La journée va être chargée. Demain matin, si je suis plus raisonnable pour la revue de presse, bien sûr, parce que c'est tous les jours la revue de presse, du lundi au vendredi, 9h midi, 9h30, 12h30. Vous avez ça en replay sur Twitch, en replay sur YouTube et tous les jours aussi, point d'exclamation podcast, en podcast désormais, audio, les Spotify, les Deezer, les Apple, etc. Vous êtes super nombreux à écouter désormais cette revue de presse. J'ai mis ça en place il y a une dizaine de jours et ça me fait bien plaisir. Allez, c'est parti pour le raid. Je vous dis. Au plus tard demain matin, et n'oubliez pas mardi prochain 7 octobre, le bingo, mon plus gros stream de la rentrée. À très vite, merci pour ce matin, ciao.
Pas mal ça.